Mercedes-Benz.
C'est bien connu. Pour observer les étoiles, il faut attendre la nuit tombée, espérer que le temps soit clair et idéalement être équipé d'un télescope. Sauf du 1er au 30 juin chez Mercedes-Benz. Là, les meilleures conditions sont réunies pour voir les étoiles en plein jour et à l'œil nu. Pendant les Star Days, profitez de nos offres sur de nombreux modèles. Ne laissez pas filer votre future étoile. Rendez-vous chez votre distributeur Mercedes-Benz. Star Days, journée étoilée, détails sur mercedes-benz.fr.
Au quotidien, prenez les transports en commun.
RMC, Intégral Sport,
Simon Dutin.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous êtes bien sûr à RMC, le temple du sport à la radio. On est ensemble en direct jusqu'à 15h. Vous ne raterez rien, comme d'habitude, c'est la promesse de l'Intégral Sport. Programme chargé, programme complet sur l'antenne durant les deux heures qui viennent. À 68 jours de l'ouverture des Jeux, votre magazine olympique en route pour Paris 2024. Les dernières infos de la rédaction et notre invité aujourd'hui, Maxime Beaumont, le kayakiste français qui vient nous parler de sa préparation. Au programme également, le Giro, le Tour d'Italie, 15e étape, le live avec Johan Bredov de la Formule 1, 7e manche du championnat du monde sur le circuit d'Imola. Les feux s'éteignent à 15h. Vous suivrez la course sur RMC en montrant en température avec Jean-Luc Roy, notre king des sports auto. Et puis la Ligue 1, bien sûr, on tire le rideau ce soir sur la saison. Avant le multiplex de 21h, on se projettera avec Sébastien Piocel, notre consultant de la Dream Team, et tous nos envoyés spéciaux au stade sur les derniers enjeux de la saison. Ils sont nombreux. Vous êtes bien au bon endroit, l'Intégral Sport. Ça démarre tout de suite sur RMC. Petit détour par le Tour d'Italie, je vous en parlais à l'instant, la 15e étape, ça grimpe. Aujourd'hui, mon cher Johan Bredov, Tadej Pogacar en rose, est-ce qu'on attend des surprises aujourd'hui ?
Du saut en parachute, et il faut un niveau de folie.
On va attendre ça, mais c'est vrai que Tadej Pogacar, il a sorti un beau numéro quand même sur le chrono hier. Ouais. Il a été battu par Filippo Ganna, certes, mais il a pris du temps sur tous les autres favoris. Il a 3 minutes et 41 secondes d'avance sur le deuxième, Geraint Thomas. 3 minutes et 56 secondes sur le troisième, Daniel Martinez. Donc voilà, il a de la marge, Tadej Pogacar. Il peut laisser cette étape à d'autres, et d'ailleurs, il y a un gros groupe hein, qui est sorti. D'ailleurs, on a déjà parcouru presque 88 km. Il en reste 134 à parcourir. Tu le disais, dans cette étape très montagneuse. Et la dernière partie est extrêmement difficile avec 3 cols classés en première catégorie, dont l'enchaînement entre le Passo di Foscagno et la montée vers Livigno. Ça sera très compliqué avec des passages à plus de 19% pour cette dernière montée. Groupe de 6 en tête avec 4 Italiens. Le mieux classé au général, c'est Christian Scaroni. Ensuite, à 1 minute et 20 secondes, on a un groupe de 43 coureurs avec des beaux noms. Hein, Jonathan Narvaez qui avait remporté la première étape.
Et qui a failli gagner à Naples aussi. Hein.
En plus, qui a failli gagner à Naples. Il a échoué à 25 mètres de la ligne. On a Nairo Quintana, on a Juan Pedro Lopez. Voilà, des coureurs qui ont déjà brillé sur la Volta. Et surtout, on a des Français. On a Ewen Kostiou, le coureur d'Arkea BNB Hotel qui est là. On a également Lilian Calmejane. Et surtout, Simon, on a Julien Alaphilippe. Julien Alaphilippe. Il a été un petit peu décroché là, peut-être un léger problème pour Julien, mais il était accompagné d'un équipier, Maury Van Sevenant. Donc voilà, Julien Alaphilippe qui avait remporté la 12e étape, qui est présent pour l'instant à l'avant, et à 4 minutes et 50 secondes derrière, on a le peloton, donc avec le maillot rose porté par Tadej Pogacar.
Costio Narváez, Alaphilippe, qui avait animé tous les trois cette étape de Naples dont on parlait, qui avait fini par être réglé par un Tadej Pogacar qui avait su se mettre au service également de ses équipiers. La question que je te pose, mon cher Johan, c'est qui peut vraiment inquiéter, ne serait-ce que pour la victoire d'étape, j'ai envie de te dire, le Slovène aujourd'hui.
Ah, pour la victoire d'étape, bah, certainement des noms de coureurs qui sont devant. Déjà, je pense à Juan Pedro Lopez, qui est un très très bon grimpeur. Je pense aussi, pourquoi pas, à Chris Hamilton ou des coureurs dans ce style-là. Maintenant, si ça se joue entre les favoris du général, je vois pas qui peut battre Tadej Pogacar. Il est juste trop fort, il évolue une classe au-dessus. On parlait de ce contre-la-montre, c'est une démonstration quand même, hein, de la part de Tadej Pogacar. Il a déjà remporté 3 étapes. Si jamais les favoris arrivent et se disputent la victoire d'étape, je vois personne d'autre que Tadej Pogacar pour s'imposer.
Un petit mot sur les écarts au général. Le Slovène qui a quoi,
3 minutes et 41 secondes.
41 secondes d'avance.
C'est dingue.
Ça peut être plié, cette histoire, dès ce soir.
Oh, c'est déjà plié, même, j'ai envie de te dire, mais c'est déjà plié pour la première place. C'était déjà un peu avant le début du Giro. On se doutait que Tadej Pogacar allait mettre tout le monde d'accord, mais là, 3 minutes et 41 secondes d'avance sur Geraint Thomas, c'est juste énorme. Je vois pas le Britannique lui reprendre ça. 3 minutes et 56 secondes sur Daniel Felipe Martinez. Ben O'Connor est quatrième à 4 minutes et 35 secondes. Donc la lutte pour la deuxième place est quand même très intéressante, la lutte pour le podium. Mais surtout, Simon, on a quand même deux Français dans le top 10. Et ça aussi, on va s'y intéresser avec Romain Bardet qui est huitième, qui est lui à 7 minutes et 52 secondes du Slovène. Et on a Alex Baudin qui est là, qui a gagné 3 places hier grâce à un très bon contre-la-montre. Et Alex Baudin, le coureur de Decathlon AG2R, la Mondial Team, qui est 10e du général à 8 minutes et 56 secondes. Donc on va les surveiller les deux pour voir si Romain peut aller chercher pourquoi pas un top 5, même si ça paraît compliqué. Et voir aussi si Alex Baudin peut rester dans le top 10, accroché, lui qui est quand même l'équipier de luxe de Ben O'Connor.
La 15e étape du Tour d'Italie, le Giro, Pogacar toujours en rose ultra dominateur. Johan, je profite du fait qu'on a un peu de temps pour en parler à l'antenne. Tu as devancé évidemment ma question sur les coureurs français. Et du coup, je vais me tourner vers l'un des enjeux, même si Pogacar, tu le disais, tu es en train de tuer le suspense. Il pourrait rejoindre le club très fermé, faut-il le rappeler, de ceux qui ont gagné le Giro et le Tour. Alors, on parle de la même année, le dernier à l'avoir fait c'est le regretté Marco Pantani, c'était en 98. Est-ce que s'il plie la course ce soir, c'est plutôt une bonne chose pour lui? Il restera une semaine pour faire tourner les jambes et ne pas trop se fatiguer en vue du prochain Tour de France. Est-ce qu'on y croit? Est-ce qu'on y croit au doublé?
Est-ce qu'on y croit au doublé? Oui, vu les circonstances de ce doublé, les circonstances de course notamment avec la blessure de Jonas Vingegaard, oui, on peut y croire à ce doublé. Le Giro est quasiment plié pour Tadej Pogacar, tu le disais, sauf évidemment blessure, on va toujours se méfier, sauf chute, etc. On ne va pas lui souhaiter de malheur à Tadej Pogacar. Mais c'est vrai que le doublé, on peut y croire plus que jamais. Là, tu le disais, il a tellement d'avance qu'il peut se permettre de pas trop en faire. On sait quand même que c'est pas sa mentalité à Tadej Pogacar. Pogacar, il a envie de tout gagner. Il lâche jamais rien. Mais maintenant, il va pouvoir contrôler. Lui-même l'a dit. Il peut faire une course plus défensive et moins se montrer à l'avant. Donc, on va surveiller d'ailleurs cette étape, qui est une des plus belles étapes de ce Giro. On va voir comment va se comporter le Slovène. Est-ce qu'il va vouloir reprendre du temps? Est-ce qu'il va vouloir faire une démonstration? Est-ce qu'il va juste vouloir sprinter dans les 300, 400 derniers mètres pour aller chercher une victoire? Voilà. Tout va dépendre du scénario de la course, évidemment. Mais oui, on peut y croire à se doubler Giro-Tour. Tu le disais, ça a été rarement fait dans l'histoire. Le dernier, c'est Marco Pantani. C'est tellement compliqué d'enchaîner les deux, d'enchaîner le Giro et le Tour. Mais là, avec tout ce qui s'est passé concernant les autres favoris pour le Tour de France, oui, on peut y croire. Tadej Pogacar est quand même bien placé pour aller faire ce doublé.
Pantani, Indurain, Roche, Hino, Merckx, Anquetil, Kopy. Que des noms qui sentent bon la légende du cyclisme. Ouais, pas mal. Je pense que Pogacar ne ferait pas tâche là-dedans. Johan Bredov qui nous commente la 15e étape du Giro, le Tour d'Italie, 222 km entre Manerba del Garda et Livigno. Tu interviens évidemment dès qu'il se passe quelque chose sur la route du Giro, à tout à l'heure. Pour l'instant, dans l'Intégral Sport, vous en avez pris l'habitude chaque week-end cette saison. RMC Radio officielle des JO et Paralympiques de Paris 2024 vous accompagne jusqu'à la cérémonie d'ouverture. C'est le 26 juillet prochain. Les dernières infos du monde olympique, l'état de préparation de nos athlètes français à 68 jours de l'embrasement de la Vasque. Dans l'Intégral Sport, on se met évidemment en route pour Paris 2024.
RMC. Radio officielle des Jeux Olympiques Paris 2024.
Il a appris officiellement sa sélection pour les Jeux cette semaine. Maxime Beaumont, le kayakiste français, est l'invité de notre magazine olympique. Bonjour Maxime et merci de passer nous faire un petit coucou dans l'Intégral Sport.
Bonjour.
Maxime, je le disais à l'instant, la bonne nouvelle, elle est tombée cette semaine. Tu disputeras bien les Jeux cet été. Ce seront les quatrièmes pour toi. Alors, pour tous les athlètes français, par facilité, on parle évidemment de Jeux à domicile. Mais pour toi, c'est vraiment, vraiment des Jeux à la maison.
Ben, tout à fait, ouais. J'ai appris ça dans la semaine, mercredi. Vers-sur-Marne, c'est là où vont se dérouler les épreuves. Et c'est un bassin que je connais très bien, puisque c'est mon centre d'entraînement. depuis plusieurs années. Alors bon, cette année, j'étais pas forcément au quotidien, mais en tout cas, je connais très très bien le site et ça fait plaisir de pouvoir concourir à la maison.
Félicitations à Maxime Beaumont qui se qualifie pour les Jeux Olympiques de Paris. Une fierté pour tout le territoire. Est-ce que tu sais qui a écrit ça sur les réseaux sociaux cette semaine?
Non, j'avoue que...
C'est Frédéric Cuvillier, le maire de Boulogne-sur-Mer, sur son compte Facebook, qui s'est évidemment félicité que l'un des enfants de la ville représente les couleurs pour les Jeux. Maxime, les places étaient chères hein, dans cette équipe de sprint. Il n'y en a que 6, 3 hommes, 3 femmes. Est-ce que tu as eu peur, tout simplement, de ne pas en être ?
Oui, bien sûr. Bah, c'est tout un processus complexe pour aller aux Jeux, parce que les places sont chères. Et j'ai tenté ma chance en 4 places, j'ai tenté ma chance en 10 places, et ce n'est que seulement sur ma dernière chance en monoplace que j'ai réussi à avoir le quota, donc la place en tout cas, et du coup c'était ma dernière chance. Donc c'était très disputé. Il y a même eu des petits couacs dans le mode de sélection.
Quel couac?
En fait, il y a eu une mauvaise interprétation, je dirais, ou une mauvaise communication entre les dirigeants et les athlètes qui a fait que ces derniers jours, ces dernières semaines, c'était un peu compliqué à gérer. Et voilà.
Bon, tout est bien qui finit bien pour cette qualification. On parle d'équipe de. Je parlais des 6 places dans l'équipe de France de sprint de canoë-kayak. J'ai une question qui va te paraître peut-être un petit peu simpliste, mais qui peut-être intéresse certains de nos auditeurs, peu au fait de la chose canoë-kayiste. Toi, tu fais du kayak. Quelle est la différence avec le canoë, tout simplement ?
Ah ouais, c'est tout simple. En fait, le kayak, on navigue assis et on pagaie des deux côtés. Et le canoë, on est à genoux et on pagaie que d'un seul côté.
D'accord, voilà, c'est aussi simple que ça. Tu seras aligné sur l'épreuve individuelle du 1000 mètres, alors que tu avais été médaillé d'argent en 2016 à Rio sur celle du 200 mètres. Le changement de distance, il accompagne quoi, la longévité d'une carrière ? C'est une évolution logique ?
Excusez-moi, vous pouvez répéter la question ?
Non, je disais que tu seras aligné donc sur l'épreuve individuelle du 1000 mètres. Tu avais été médaillé d'argent en 2016 à Rio sur celle du 200 mètres. Pourquoi avoir changé de distance ? Est-ce que je te demandais si c'est finalement une évolution naturelle pour accompagner la longévité de ta carrière ?
C'est une façon d'exiger de me dire que je suis vieux et que j'ai changé de...
Non. Non, mais effectivement, il y a quand même une sacrée différence de distance. On rappelle que c'est quand même le premier arrivé au bout. Donc oui, naturellement, forcément. Peut-être qu'il y a un peu moins d'explosivité à 42 ans, ton âge actuel, qu'il y a quelques années.
Bien sûr. Non, honnêtement, je ressens bien je ressens bien l'âge. Mais là, c'était plus un choix obligatoire, puisque le 200 mètres n'est plus une distance olympique. Tokyo, c'était la dernière Olympiade sur 200 mètres.
Ouais.
Et donc, les épreuves ont évolué. Et en monoplace, il n'y a que le 1000 mètres. Donc, dans un premier temps, j'ai été sur le 500 mètres en 4 places parce que c'était l'effort qui ressemblait le plus au mien. Ensuite, en biplace. Et finalement, monoplace 1000. Mais c'est celui-là, pour le coup, il y a 3 minutes de plus d'effort qu'en sprint. On passe de 35 secondes à 3 minutes 30. Donc voilà, c'est plutôt un grand écart et la préparation, elle n'est pas du tout la même. Donc là, sans l'avoir préparé de manière drastique, je m'en suis plutôt bien sorti à la Coupe du Monde en accédant à la finale. Mmh. Donc j'ai bon espoir pour la suite avec une préparation spécifique pour dans 2 mois.
Maxime Beaumont, le kayakiste français médaillé d'argent en 2016 à Rio, qualifié à Paris pour ses 4e Jeux Olympiques, est notre invité dans En route pour Paris 2024, votre magazine olympique. Maxime, tu l'as évoqué un petit peu du bout des lèvres tout à l'heure, ce petit imbroglio avec la fédération française. Raconte-nous un petit peu. On s'intéresse aux sportifs dans la lumière, aux Jeux. Ça a été un petit peu la croix et la bannière hein, pour se qualifier. Raconte-nous un peu les coulisses de cette préparation que tu as dû assumer par moment tout seul, voire à tes frais.
En début d'année, la fédération a fait un choix stratégique de dire bon, les kayakistes hommes, vous vous débrouillez par vos propres moyens et la fédération met ses moyens sur les personnes déjà sélectionnées aux Jeux Olympiques. Ça a été On l'a appris très tardivement et c'est ça qui nous a mis un peu dans la difficulté. Pour autant, moi j'ai mis en place grâce à mes partenaires des moyens qui ont fait que j'ai pu me préparer tout l'hiver, partir en stage au chaud parce que bon, faire du kayak l'hiver dans le nord c'est compliqué. Donc au chaud et puis j'ai eu de la chance aussi d'avoir un écosystème qui m'aide vraiment bien dans tout ça. Ensuite là concernant les sélections nationales. Il y a eu un petit souci, c'est que il y a eu des règles annoncées en cet hiver, et ces règles en fait elles ont été refusées par les organes qui valident les modes de sélection. Sauf qu'en fait cette information là elle est pas redescendue aux athlètes, donc les athlètes sont restés sur ce qui avait été annoncé. Et puis en fait là ils ont appliqué le mode de sélection à la lettre. Sauf que c'était pas ce qui avait été annoncé, et d'où la polémique qu'il y a en ce moment. Sauf qu'en fait, la fédération, elle, fait que appliquer, hein, mais c'est juste qu'elle a oublié de nous dire, ou en tout cas, l'information est mal redescendue au niveau des athlètes, et du coup, les athlètes, c'est l'incompréhension à ce niveau-là, quoi.
Bon, ça va, le groupe de la fédération vit bien, comme on dit dans d'autres, dans d'autres domaines.
C'est un peu compliqué quand on n'est pas dedans, mais c'est la vie pour les autres athlètes.
Voilà, d'où le fait de savourer d'ores et déjà la participation au jeu, et sans aller jusqu'à reprendre les mots célèbres du baron de Coubertin, à 42 ans, même si tu le rappelais, tu as changé de distance, est-ce que tu vises encore une médaille, une victoire au jeu? Quels sont tes objectifs cet été? Quels seront les adversaires les plus durs à battre?
Moi, c'est sûr que je vais pas. Les jeux, je connais, donc j'ai pas envie d'y aller juste pour y participer. Ouais. Même si la phrase est belle, mais moi, je veux y aller pour performer. Bien sûr, c'est à la maison, donc il y a aussi un petit truc spécial, hein, et que j'avais envie de vivre. Mais l'objectif principal, c'est quand même d'aller en finale et tenter de gagner une médaille. Les adversaires principaux, ça va être les Hongrois, le Portugais, les Allemands. Ça, c'est des nations qui sont très très fortes sur le K1 1000 et on sait qu'ils sont là. Donc maintenant je vais me préparer. Il me reste 2 mois pour me préparer vraiment de manière spécifique et puis pouvoir jouer avec les gros.
Maxime Beaumont, kayakiste français qualifié cet été pour ses 4e Jeux Olympiques, et notre invité en route pour Paris 2024. Dernière petite question, Maxime, avant de te libérer. La préparation, elle se poursuit avec les championnats d'Europe en Hongrie à la mi-juin. Nous, on aime bien, dans ce petit rendez-vous avec les athlètes, rentrer dans les coulisses de la préparation. C'est quoi ton petit truc à toi en préparation? Est-ce que t'es plutôt Netflix, plutôt Spotify? On écoute de la musique, on s'isole, on voit les copains, au contraire la famille, avant de rentrer dans sa bulle. C'est quoi ta recette?
Moi, c'est plutôt Netflix. Ouais. Et après, au niveau des jeux, je suis plutôt à rester avec l'équipe, avec le staff, avec les gars de l'équipe. Et j'aime bien un petit peu dédramatiser. Enfin, j'aime bien rire, faire des blagues, dédramatiser un petit peu l'enjeu qu'il y a autour des jeux. Et ça me met dans des bonnes conditions pour embarquer. Et ensuite, j'ai les 20 minutes, les 20 minutes sur l'eau pour pouvoir bien me concentrer et être présent sur la course.
Bon, un petit conseil série là pour ceux qui ne savent pas quoi regarder.
Comment ?
Un petit conseil série pour ceux qui ne savent pas quoi regarder.
Oula, là je ne sais pas trop.
Non, il n'y a pas grand chose en ce moment. Bon, écoute. Bon, mais merci en tout cas Maxime Beaumont d'être passé par l'Intégra Sport dans En route pour Paris 2024. RMC Radio officielle des Jeux Olympiques et Paralympiques. On continuera évidemment à suivre à ta préparation jusqu'aux épreuves cet été qu'on vivra en direct. Je vous recommande à ce titre-là les commentaires de Aurélien Tiercin pour le sprint en kayak. Ça vaut son pesant d'émotion. Merci beaucoup Maxime et à très bientôt sur l'antenne de RMC. Vous ne bougez pas, votre magazine olympique se poursuit dans quelques instants. On accueillera Léna Marzac de notre rédaction RMC Sport afin de faire un petit tour, un petit point complet sur l'actualité olympique de la semaine écoulée. À tout de suite.
RMC Intégral Sport.
Simon Dutin.
À 13h25, vous êtes bien sur RMC, on est ensemble en direct jusqu'à 15h. On poursuit notre détour hebdomadaire vers Paris 2024, les dernières infos du monde olympique et paralympique, tout ce que vous avez peut-être manqué cette semaine, session de rattrapage ou de mise à niveau avec Léna Marjac, notre spécialiste olympique de la rédaction RMC Sport. Salut Léna.
Salut Simon, salut à tous.
On débute avec du judo, les mondiaux à Abu Dhabi, sans Teddy Riner.
Oui, sans Teddy Riner, mais quand même avec une belle équipe de France. Et aujourd'hui, c'est justement l'entrée en lice de deux Français qualifiés pour les Jeux Olympiques. Chez les femmes, Amandine Buchard en moins de 52 kilos et Lucas Meredze en moins de 60 kilos. On retrouve d'ailleurs sur place à Abu Dhabi Morgane Maury. Et Morgane, alors tout va bien pour Amandine Buchard et je crois qu'elle est même sur le tatami devant toi.
Oui, sa demi-finale, ça, l'Italie. Odette Jouffre, la double médaille olympique, médaillée mondiale, vient de commencer 25 secondes dans ce. Buchard qui quête sa première finale mondiale.
Ah, la liaison avec Abu Dhabi.
Liaison compliquée. Amandine Buchard donc est sur le tatami. Elle est en demi-finale face à une Italienne. En quart, elle avait dû s'employer. Mais Amandine Buchard va essayer de tenter de remporter son premier titre mondial. Un titre donc qui lui manque. Et une mauvaise nouvelle pour notre équipe de France aujourd'hui, puisque c'est la défaite de Lucas Meredze en huitième de finale de ses championnats du monde en moins de 60 kilos. Défaite face à un Japonais. Et justement, Morgane Maury a récupéré sa réaction juste après le combat. Écoutez.
Non, je pense pas parce que malgré tout, j'ai fait quand même des bons résultats en 2023 et puis début d'année aussi. Je sais qu'à chaque fois quand j'ai fait un mauvais résultat, bon, ensuite j'arrive à revenir bien. Donc c'est ce que j'espère par la suite. Et maintenant, plus qu'à récupérer une semaine et puis après, il reste moins de deux mois pour bien préparer les Jeux Olympiques.
Et oui, parce qu'il va essayer d'aller chercher une nouvelle médaille aux Jeux Olympiques, lui qui avait remporté une médaille de bronze à Tokyo. Et donc les championnats du monde continuent aussi toute la semaine, avec notamment mardi prochain l'entrée en lice de Clarisse Agbenienou, qui elle tentera d'aller chercher un septième titre mondial.
Et on retrouvera évidemment Morgane Maury en direct d'Abu Dhabi un petit peu plus tard sur RMC. Autre grande tradition olympique française, un petit peu d'escrime, Léna, Yannick Borel qualifié pour les Jeux.
Oui, hier au Challenge Mona, l'étape de Coupe du Monde organisée à Saint-Maur-des-Fonds, l'épéiste français s'est incliné en quart de finale, mais ce résultat permet à Yannick Borel d'assurer sa place de numéro 1 français au classement des épéistes. Le voilà donc assuré de participer aux Jeux Olympiques de Paris, une immense satisfaction pour l'escrimeur de 35 ans.
Quatrième JO, et pour moi c'est une nouvelle opportunité d'être médaillé cette fois en individuel. Cette médaille, j'en parle beaucoup, mais je la veux vraiment. Je pense que sur le plan physique, j'ai pas mal de certitudes. Sur le plan technique, j'ai encore des choses à travailler. Ma tactique de match aussi, en dépendance de chaque adversaire, c'est sur ça que je travaille beaucoup. Et la chance qu'on a aussi, c'est qu'on saura assez rapidement le tableau. À peu près 2-3 semaines avant les Jeux, je vais pouvoir mettre en place le plan sur chaque adversaire que j'aurai en face de moi.
Et alors pour les Jeux, il reste encore deux places à aller chercher en individuel. En épée, Romain Canon et Alexandre Bardonnet sont les mieux classés. Eux ont été éliminés hier en huitième de finale du Challenge Monal. Ils devront donc attendre le 27 mai prochain pour connaître la sélection officielle pour les Jeux.
C'est votre JT de l'actualité olympique dans votre rendez-vous chaque week-end en route pour Paris 2024. On est avec Léna Marjac. Léna, Victor Wembanyama, c'est du basket évidemment. Il est de retour en France avant d'entamer la préparation pour le tournoi olympique.
Et oui, hier lors d'un événement organisé par l'un de ses sponsors à Nanterre, Victor Wembanyama est venu s'essayer un petit peu au football, mais aussi marquer quelques paniers devant des centaines de jeunes et tous admiratifs, hein, forcément de la star du basket français. Le joueur des Spurs en a même profité pour dévoiler le nouveau maillot de l'équipe de France, parce que Wemby, eh bien, il a maintenant la tête tournée vers les Jeux Olympiques.
Quelque chose dont je rêve depuis très longtemps, les JO, même sans même parler des JO en France. Donc ça sera beaucoup de plaisir et je viens pour apprendre de ceux qui sont certains des meilleurs joueurs de l'histoire de l'équipe de France. Et j'ai aucun doute que les responsabilités sur le terrain seront réalistes et on veut utiliser toutes nos armes et que mes coéquipiers seront prêts à me donner autant de responsabilités que nécessaire. Mais je viens pas pour être le patron de ceux qui ont 5, 6, 7 campagnes dans les jambes.
Alors le programme de Wembanyama en vue des Jeux, donc il va retourner s'entraîner un petit peu à San Antonio avant le début donc de la préparation olympique le 17 juin prochain avec l'ensemble de l'équipe de France.
Et il parle déjà comme un vétéran, la sagesse de Wembanyama, il ne veut pas être le patron, peut-être qu'il le sera malgré lui hein, lorsqu'on domine autant des deux côtés du terrain. Léna, des qualifs pour les Jeux sont tombés en badminton, en bad, comme on dit.
En bad, et vous devez sûrement tous vous souvenir de cette fameuse erreur de calcul qui avait changé le classement en double homme. Lucas Corvée, Ronan Labarre, initialement qualifiés pour les Jeux, se sont finalement vus rétrogradés à la deuxième place française, derrière les frères Christo et Thomas Popov. Ce sont donc ces deux derniers qui verront les Jeux de Paris en double homme. Le Comité National Olympique et Sportif Français a confirmé leur qualification cette semaine. Les deux frères avaient jusqu'alors gardé le silence dans cette affaire. Ils se sont exprimés cette semaine.
On reconnaît de leur côté que c'est très difficile et on a aussi gardé silence. On voulait pas forcément s'exprimer parce qu'on attendait des informations. Ils sont exprimés, c'est normal. Tout le monde disait que c'était pour une erreur de calcul, ils y vont pas. Alors qu'au final, il y a aussi l'autre côté de l'inversion où pour une erreur de calcul, ils y seront allés en fait. On est juste en stand-by, on voulait pas prendre de position. Et je veux dire, c'est complètement normal que défendent leur place. Nous, de notre côté, on a juste attendu quoi.
Et alors, en plus du double homme, Thomas Junior Popov sera le représentant français en simple homme. Chez les femmes, Choufeil sera aligné en simple dame. La paire Margot Lambert et Anne Tran en double dame. Et Jiquel Delru en mixte. Et donc, à noter, c'est la première fois de l'histoire que le badminton français est représenté dans chaque discipline lors de Jeux Olympiques.
Et on s'en félicite, évidemment. On suivra ça sur RMC. Léna, l'équipe de France masculine de basket 3 contre 3. Se rapproche, elle, d'une qualification pour les Jeux.
Oui, alors le chemin est encore long pour les Bleus. Qualifiés en quart de finale grâce à leur victoire contre le Canada, les Français du basket 3-3 ne doivent plus perdre s'ils veulent voir les Jeux de Paris. Alors, à l'issue de ce tournoi de qualification olympique en Hongrie, 3 tickets pour les JO seront distribués. D'abord aux deux équipes finalistes et puis à l'équipe vainqueur du match pour la 3e place. En clair, les Bleus doivent gagner leurs deux prochains matchs pour s'assurer une place aux JO. Pas d'erreur possible. Prochain match déjà face à l'Allemagne. Ce sera tout à l'heure à 16h15. En quart de finale.
Bon, voilà.
On verra suivre. J'espère qu'ils vont se qualifier.
Comme on dit dans notre jargon, chère Léna, évidemment, c'est votre JT d'actualité olympique dans En route pour Paris 2024. On poursuit avec du BMX. Léna, troisième titre mondial pour Joris Daudet.
Oui, alors il a dominé de bout en bout la compétition. Daudet remporte son quart de finale, sa demi-finale et donc la finale. Et le voilà avec le maillot arc-en-ciel de champion du monde. C'était des championnats du monde à Rock Hill aux États-Unis. C'est son troisième titre mondial après ceux déjà acquis en 2011 et 2016. Et puis un deuxième Français vient compléter le podium, c'est Sylvain André. Il repart lui avec une médaille de bronze. Et donc à quelques semaines des JO, ses résultats sont plus que prometteurs. Un mot aussi d'athlétisme parce qu'un record de France de lancer de javelot est tombé au meeting de Fontainebleau. Le Français, alors j'espère bien le prononcer, Théu-Rey Toupaï a réalisé 86 mètres 11. C'est le nouveau record de France, mais aussi la cinquième meilleure performance mondiale de l'année. Et c'est un résultat synonyme de minima olympique pour le Tahitien de 24 ans. Et puis nos lanceurs sont en très très grande forme puisque Tom Rux, en lancer de disque, a réalisé lui un jet à 67 mètres 91. Il pulvérise son record lors du meeting international de Fort-de-France en Martinique et il réalise lui aussi les minima olympiques.
Terai Tupaya, 86 mètres 11. Voilà, chacun d'entre eux, on lui pose la question sur RMC. On a le temps de progresser d'ici à l'ouverture des Jeux. Léna, des nouvelles de la flamme olympique, où en est-elle? Elle continue de sillonner nos contrées, nos villes française, elle est passée dans le village du regretté Bernard Lapassé, décédé l'an dernier.
Et oui, Bernard Lapassé, ancien président de la Fédération française de rugby et surtout personnage important dans la candidature des Jeux de Paris. Eh bien, il a été mis à l'honneur ce matin lors du passage de la flamme. La torche s'est arrêtée dans le village de Louite, dans les Hautes-Pyrénées, village dont était originaire Bernard Lapassé. Et des membres donc de sa famille se sont relayés pour porter la flamme en son honneur. Et on continue avec l'actualité de la flamme parce que, eh bien, elle devait passer le 11 juin. Oui. Prochain en Nouvelle-Calédonie. Mais en raison du contexte et surtout des violences depuis quelques jours sur l'île, eh bien, l'événement a été annulé, a annoncé le gouvernement. Et la ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castéra, s'est exprimée sur ce sujet au micro de Valentin Jamin.
On aurait voulu pouvoir partager ce moment-là. On sait aussi que voilà, d'ici le 11 juin, il peut y avoir des évolutions favorables et on le souhaite tous. Mais pour être prêt le 11 juin, en fait, c'est tout un compte à rebours et des opérations de prospection, de vérification, de filage qui doivent être opérées. Et les forces de l'ordre, les militaires aujourd'hui, sont occupés à rétablir le calme, rétablir l'ordre. Priorité à la sécurité des habitants, priorité au retour au calme.
de mesures, évidemment, dont on comprend les fondements. Léa, petit coup de projecteur dans En route pour Paris 2024 sur un sujet qui touche toutes les sportives et athlètes féminines de haut niveau, la gestion des cycles menstruels.
Mais oui, c'est un sujet très important parce qu'avoir ces règles peut avoir quelques conséquences dans sa pratique du sport à haut niveau. Il faut pouvoir intégrer donc les cycles menstruels à sa préparation en compétition et surtout cette année en vue des Jeux Olympiques. Et Maria Azé, reporter RMC Sport, est allée justement à la rencontre d'athlètes françaises. Écoutez.
Avoir ces règles pendant les Jeux Olympiques.
Normalement, je suis censée ne pas les avoir aux Jeux.
Inimaginable pour la gymnaste Colline Desvillard.
Moi, mes règles, elles sont pas simples. Déjà, moi, je les ai une semaine entière, donc ça va être du lundi au lundi. Je perds beaucoup de sang. Des fois, je vais avoir hyper mal aux ovaires.
D'autant plus lorsque l'on pratique la gymnastique.
Nous, à la gym, on est en justo. En général, avec les filles, on essaie de savoir qui va avoir ses règles quand, pour qu'on sache quelle couleur de justo on va mettre, pour que la personne qui a ses règles soit le plus à l'aise possible.
Pendant sa période de règles, la grimpeuse Capucine Viglione, elle voit sa sensibilité décuplée.
Si je fais une mauvaise séance, ça prend tout de suite des proportions. Enfin, je vais me mettre à pleurer à l'entraînement.
Alors, difficile d'imaginer les avoir pendant une grande compétition comme les Jeux Olympiques.
Vu que je suis plus sensible quand j'ai mes règles, ça me gênerait vraiment au JO parce que la pression, parce que les émotions autant positives que négatives, du coup, tout devient un trop.
Juliana Antero est chercheuse à l'INSEP et a mené une étude sur l'impact des règles sur la performance sportive.
Ce que nous avons pu observer, c'est que les cycles menstruels ont un impact important sur le bien-être et l'entraînement des sportifs.
En France, une femme sur deux souffre de règles douloureuses, alors pour les athlètes, il faut trouver des solutions.
Dans l'idéal, les athlètes devraient avoir un cycle en telle bonne santé qu'il n'impacterait pas leur performance. Mais si elles ont beaucoup de douleurs, dans ces cas, on va considérer cela pas comme une fatalité, avec peut-être un suivi médical ou un accompagnement spécifique pour que cela ne soit plus un problème.
Autre solution, la pilule qui régule les cycles dans la majorité des cas, mais qui peut aussi avoir son lot d'effets secondaires. Colline Desvillard l'a envisagé.
Je m'étais dit, avant les Jeux, est-ce que c'est bien si je prends la pilule et tout, et j'ai vite, je me suis dit, vaut mieux pas faire ça, parce que je sais pas comment je vais réagir à la pilule. Je me suis dit, je préfère avoir mes règles que avoir des changements d'un peu partout, je prends le risque.
Si les règles de Colline ne la mettent pas dans les meilleures dispositions, ce n'est pas le cas pour toutes les athlètes. La montée d'hormones peut aussi être un accélérateur de la performance. En 2003, Paula Radcliffe avait battu le record du marathon de Chicago alors qu'elle avait ses règles.
Merci beaucoup Maria Azé pour cet excellent reportage, un sujet évidemment d'une extrême importance pour les athlètes féminine de haut niveau. Merci beaucoup Léna pour cette page olympique plus que complète. On rappelle qu'Amandine Bouchard est actuellement sur le tatami. Elles en sont au Golden Score face à l'Italienne Giuffrida.
Et alors apparemment, moi je suis un peu en retard, mais on me dit dans l'oreillette qu'elle vient de se qualifier et donc elle est en finale à 17h05 tout à l'heure.
Et formidable à suivre évidemment sur RMC. Vous ne manquez rien dans l'Intégra Sport et on trouvera évidemment Morgane Maury aux commentaires en direct depuis Abu Dhabi. Merci beaucoup Léna et à très vite sur l'antenne de RMC. Vous ne bougez pas, 13h38, l'Intégra Sport revient dans un instant, un détour par la route du Giro et puis on prendra la direction de l'Italie d'Émilie-Romagne, le Grand Prix de Formule 1. On sera avec Jean-Luc Roy pour les enjeux de cette 7e manche de la saison. Vous ne bougez pas, on revient tout de suite sur RMC.
RMC Intégra Sport,
Simon Dutin.
À 13h40, la suite de l'Intégra Sport. On est ensemble en direct jusqu'à 15h. Dans un instant, on va parler de Formule 1. Mais avant ça, petite erreur. Alors, pas de la part de la rédaction RMC, mais de la part des premières annonces via l'Internet. On vous annonçait avec un grand plaisir la qualification d'Amandine Bouchard pour la finale des championnats du monde de judo dans la catégorie des moins de 52 kilos. Victoire au Golden Score. Décision inversé par les juges, c'est finalement l'Italienne Giuffrida qui se qualifie. On est bien déçu de l'apprendre, mais bon, voilà, décision des juges qui y fait foi. Amandine Bouchard, qui n'est pas qualifiée donc pour la finale, les Mondiaux à Abu Dhabi de judo, c'est à suivre toute la semaine sur l'antenne de RMC. On retrouvera Morgane Maury un petit peu plus tard sur l'antenne. On attend notamment, en l'absence de Teddy Riner, l'entrée en lice mardi de Clarisse Agbenenou, qui tentera d'aller chercher un 7e titre mondial. Tout cela évidemment à préparation en vue des Jeux de Paris, où on espère une belle moisson de notre équipe de France. Les Mondiaux de judo, vous n'en manquerez pas une miette sur l'antenne de RMC. On fera un point régulier dans l'Intégral Sport. Je vous le disais, l'un des événements de la journée, c'est la Formule 1. Vous suivez toute cette saison sur les antennes de RMC. Grand Prix d'Émilie-Romagne, vous le suivrez en direct tout à l'heure à partir de 15h. On va en parler dans un instant avec Jean-Luc Roy qui nous attend. Mais la promesse de RMC, c'est d'avoir les yeux et les oreilles partout où le sport fait l'événement. On part sur la route du Tour d'Italie, la 15e étape, Johan Bredov, des échappés qui ont une avance confortable dans cette étape où on attend derrière eux la réaction d'un Tadej Pogacar. On va voir si il est un petit peu inquiété par ses rivaux.
Ouais, c'est pas si confortable que ça pour les échappés à 104 km de l'arrivée. Non, il y a 6 hommes en tête. Tobias Baier, Davide Ballerini, Christian Scaroni, Harrison Wood, Giulio Pellizzari et Alessandro Tonelli. Eux ont 2 minutes et 15 secondes d'avance sur un groupe dont je vous parlais tout à l'heure de 46 coureurs dont Julian Alaphilippe. Mais le peloton n'est qu'à 4 minutes et 50 secondes.
Et c'est pas confortable ça.
Et c'est pas confortable. D'accord. Vu le profil qui se dessine pour la dernière partie de course. Allez. Parce que là, on va arriver dans 30 km au pied du Passo del Mortirolo. La première difficulté classée en première catégorie de cette étape. Ça va être très compliqué. Et ensuite, en fin d'étape, il y aura l'enchaînement du Passo di Foscagno et donc la montée vers Livigno. Là, c'est deux cols également de première catégorie avec des passages terribles à plus de 19%. Donc en fait, je suis pas sûr que ça suffise parce que derrière, la team Emirates, l'équipe de Tadej Pogacar roule. On a envie de faire gagner le leader une nouvelle fois. Tadej Pogacar, le glouton qui a envie de
il ne laisse
manger.
Aucune miette à personne.
Non, c'est ça. Et en plus, ça déplaît aux coureurs souvent.
Oui, j'ai vu qu'il y avait un début de polémique dans le peloton.
Ouais, ouais, on se rappelle des dires de Julien Alaphilippe ou encore de Romain Bardet qui s'était plaint un petit peu de cette stratégie de course de la team Emirates. Là, l'écart a un petit peu augmenté quand même. On était à 4 minutes et 30 secondes. On est passé à 4 minutes et 50 secondes. Donc peut-être qu'il y a du relâchement. Mais ça risque de pas suffire si jamais ça s'explique du côté des favoris pour les hommes de tête qui auront laissé beaucoup d'énergie déjà. Donc on est à 102 km de l'arrivée. 6 hommes en tête qui possèdent un peu plus de 2 minutes d'avance sur un groupe d'une quarantaine de coureurs avec pas mal de Français. Enzo Paleni, Lilian Calmejean ou encore Julian Alaphilippe. Et donc un peu moins de 5 minutes sur le peloton maillot rose porté par Tadej Pogacar qui a des envies de victoire.
Bon, et on verra si le glouton slovène effectivement réussit à se mêler à la lutte pour la victoire d'étape, lui qui compte déjà 3 minutes 40, il nous le disait, en tête du classement général. Mais évidemment, il veut tout gagner. Et nous évidemment, on adore ça. Je vous le disais, Amandine Buchard, éliminée au Golden Score, battue au Golden Score par l'Italienne Giuffrida. C'est du judo, moins de 52 kilos à Abu Dhabi, les championnats du monde. Elle combattra notre Française pour le bronze. Tout de même, maigre consolation, mais tout de même, ce sera à 17h05 à vivre évidemment sur RMC avec Morgane Maury au commentaire. Mais je vous le disais, de la Formule 1 à présent dans l'Intégral Sport, le Grand Prix d'Émilie-Romagne sur le mythique circuit d'Imola où les feux s'éteindront à 15h. Vous suivrez la course évidemment autour de Benoît Boutron qui prendra ma place d'ici une grosse heure. On va tout doucement monter en température avant le départ de cette 7e manche de la saison. On va essayer de voir surtout si la victoire de Norris à Miami la semaine dernière peut faire des petits, inspirer une concurrence jusqu'ici bien timide pour Max Verstappen qui s'élancera évidemment comme d'habitude en pole position. Alors pour tenter de répondre à cette question, on accueille évidemment Jean-Luc Roy, notre spécialiste des sports auto à la rédac RMC Sport. Salut Jean-Luc.
Oui, salut Simon, bonjour à tous.
Jean-Luc, est-ce que j'ai un peu trop survendu le retour du suspense dans le paddock ?
Mais non, jamais, tu l'as très bien vendu. Alors tu parlais de glouton pour Tadej Pogacar, moi j'ai le glouton batave, le glouton batave, ça te plaît ça pour
faire on adore bien sûr.
Bon, écoute, oui parce que honnêtement pendant les séances d'essais libres, il était un peu nulle part, enfin pour lui, il était dans les 5-6e et puis on voyait très bien qu'il avait énormément de mal à contrôler sa monoplace qui lui échappait et plusieurs fois il s'est retrouvé dans le bac à sable. Bon, il en est sorti, on voyait qu'il avait du mal à trouver vraiment l'équilibre de cette monoplace sur ce tracé, tu le disais, d'Imola, un tracé à l'ancienne, mais comme on les aime beaucoup et les pilotes les aiment beaucoup, un tracé qui ne pardonne pas, c'est pas un parking, tu vois, sur lequel tu peux sortir à 300 km/h et te récupérer 50 mètres plus loin. Non, là quand tu sors, c'est immédiatement la sanction, elle est lourde, tu peux abîmer ta monoplace, on l'a vu notamment pour Alonso et pour Pérez. Bref, donc il n'était pas au mieux, et puis comme d'habitude, j'allais dire presque comme le Phoenix, au bon moment, Verstappen, il nous sort le tour de folie et là, bah, il a fait une pole, la nouvelle pole. Alors, tu sais, par parenthèse, donc c'est la 39e de sa carrière de pilote de Formule 1, ça, ok.
Et 7 sur 7 cette saison, non,
c'est ça? Et ouais, exactement. Donc, ça le met au niveau d'Alain Prost en 1993. Alain, quand il a décroché son 4e titre de champion du monde, c'était pour Williams à l'époque. Et ben, il avait une, bon, il était dans une forme éblouissante et puis il avait une monoplace dominatrice. Et donc, il a aligné les 7 pôles. Et puis, surtout, au niveau d'Ayrton Senna. Ayrton Senna, qui est le seul pilote à avoir aligné 8 pôles consécutives. Alors, sur 2 saisons, c'était en 88 et 89. Et bah, c'est ce qu'a fait également Max Verstappen, là, puisqu'il avait été en pôle lors du dernier Grand Prix de la saison 2023 à Abu Dhabi. Plus les 7. Écoute, on est face à une légende, hein, je le dis tout le temps. Je sais que certains ne l'aiment pas pour diverses raisons, parce qu'effectivement, il est peut-être pas très vendeur. C'est un vrai pilote, si tu veux, tu vois. Il la ramène pas sur tout un tas de sujets. Lui, il se contente de tourner le volant et de quelle manière. Moi, je suis bluffé par ce type-là. Parce que là, encore une fois, il a sorti la pole au bon moment. Alors, va-t-il, et c'est tout l'enjeu que tu nous vendais, va-t-il être capable de dominer le Grand Prix de la même manière? Ça, c'est moins sûr.
Alors, réponse à partir de 15h, hein, extinction des feux à vivre en direct sur RMC autour de Benoît Boutron. Tu seras évidemment aux commentaires, Jean-Luc. Tu le sous-entendais, un Verstappen ultra dominateur en qualif toute la saison. Mais hier, justement, il a eu quand même forte affaire. Hein, et je crois qu'on l'a senti en tout cas très soulagé à la fin des qualifs. Vraiment heureux. C'était pas la routine, hein, comme les courses précédentes. Parce que ces qualifs, elles confirment la montée notamment en puissance de McLaren après la victoire de Norris à Miami.
Ah ben je crois que c'est clair, hein. McLaren de toute façon, on les sait très performants depuis le début de la saison, enfin avant même, on savait que cette victoire effectivement de Lando Norris, elle allait survenir à un moment ou à un autre, et là elle est arrivée, j'ose dire, à la régulière à Miami, c'était lui d'ailleurs, il l'a dit.
À la régulière plus la safety car qui s'est trompée quand même,
oui,
non?
Oui, mais tu sais, oui, ça a été un avantage ponctuel, mais...
Oui, mais après il a repris de l'avance, remarque, voilà. Tu me diras. Voilà.
C'est-à-dire que on s'est retrouvé comme il fallait, puisqu'à ce moment-là, il était en tête. Bon, la safety car s'est pas mis au bon endroit. Je suis d'accord. Mais quand après, on a reclassé les pilotes et que on a libéré les pilotes, eh bien, Lando Norris est parti régulièrement et a creusé un écart de manière absolument irrépressible. Il a pu rien faire. Il l'a dit, hein, Verstappen. Donc là, on va voir ce qui se passe. Alors, pourquoi je te disais que c'est moins évident? Bah, parce que il avait les deux McLaren. Bon, dans l'intervalle, Oscar Piastri, malheureusement pour lui, a été pénalisé pour avoir gêné Magnussen en qualif dans la Q1. Ouais. Donc au lieu de... Il se retrouve cinquième sur la grille, mais on a quand même les deux McLaren qui prennent en tenaille, c'est le cas de le dire, les deux Ferrari. Alors parlons-en quand même des deux Ferrari, de Charles Leclerc et Carlos Sainz. Même si... On va oser dire que c'est une relative déception parce que Charles, il se voyait bien en pôle, hein, lui aussi. Lui qui avait été l'homme le plus rapide des deux premières séances d'essais libres à Imola. Tu connais l'ambiance là-bas devant les tifosi. Hein, les collines sont rouges. C'est vraiment absolument une ambiance fantastique tout près de Bologne sur ce tracé mythique, tu le disais. Donc, je pense que stratégiquement, normalement, on part pour un seul arrêt. Mais, heureusement, c'est de la Formule 1. La probabilité, pour les raisons évoquées tout à l'heure, d'avoir ou un safety car ou un virtuel safety car est énorme. Hein. Safety car, c'est 100% carrément. A priori, il devrait y en avoir un. Donc, on va regrouper les pilotes. Donc, ça veut dire que l'avantage éventuellement acquis par l'un ou l'autre, par le leader, peut être gommé, tu sais, puisque dans ce cas-là, il faut repartir. Oui. Et là, tout dépend de la stratégie que tu as adoptée. Je pense que pour essayer de rester en tête, on va partir avec les pneus tendres. Il faut savoir que Pirelli a apporté là, à Imola, les trois gommes les plus tendres de sa gamme. Tu sais, il y a 5 catégories de gommes différentes. Ça veut dire que les tendres ne devraient pas faire long feu, entre guillemets, avec la charge de carburant maximale. Et après, bah, tout dépend de la stratégie élaborée par les pilotes et les ingénieurs. Et tout dépend, je l'ai dit, des circonstances de course. Et quand on a deux voitures pour jouer, comme c'est le cas de Ferrari ou de McLaren, alors que Pérez, lui, bah, s'est raté en qualif, hein, il part 11e, et bah, on peut avoir une stratégie dans un sens, tu vois ce que je veux dire, c'est-à-dire partir. partir en médium, par exemple, pour aller plus loin. Et puis, une stratégie dans l'autre, c'est-à-dire utiliser les softs, qui est, à mon sens, le plus évident, pour essayer de conserver la pôle. Alors, on va voir. Hein, après, chaque équipe travaille l'équilibre de sa monoplace. Et je l'ai dit, Red Bull a eu beaucoup de mal à trouver l'équilibre de la monoplace, déjà sur un tour. Donc, il y a sincèrement du suspense. Hein. Alors, c'est un circuit où il est un petit peu difficile de dépasser.
Voilà. Il faut être clair. Ouais, voilà. Il paraît qu'après Monaco, c'est le circuit où c'est le plus difficile de dépasser de toute la saison.
Ben oui, et puis Charles Leclerc se plaignait du fait, on ne sait pas pourquoi, tu sais, parfois il est
difficile. Il se plaint souvent, Charles Leclerc, j'ai l'impression tout de même.
Non, oui, enfin là c'est une remarque pertinente, tu vas voir pourquoi. Parce que la zone de DRS, la zone d'utilisation du DRS a été réduite cette année par rapport à ce qu'elle était, non pas l'an dernier. Tu te rappelles peut-être qu'il y avait eu des inondations malheureusement terribles en Émilie-Romagne et que le Grand Prix avait été annulé. Donc il n'y avait pas eu de Grand Prix en 2023. Mais en 2022, la zone de DRS était plus étendue. Là, on l'a réduite, alors sans qu'on ait une explication cohérente et valable. Donc évidemment, ça génère moins d'opportunités de dépassement, ou disons que c'est moins facile d'utiliser le DRS. Bon, maintenant, tu sais, là aussi, on dit on dépasse pas, et puis je peux dire, les grands champions, ils dépassent toujours. Hein. Bah voilà.
Bah oui, même à Monaco, on voit des dépassements, alors qu'on nous annonce toujours que c'est impossible de dépasser. Le Grand Prix de Formule 1 d'Émilie-Romagne, septième manche de la saison sur le mythique circuit d'Imola, extinction des feux à 15h, course à suivre en direct, évidemment, sur RMC autour de Bono Vautron. Avec Jean-Luc Roy, notre consultant sport auto, aux commentaires évidemment. Jean-Luc, on le rappelle, les Mercedes, deuxième force actuelle du paddock derrière, j'allais dire Red Bull, mais non, derrière Max Verstappen, parce que on a un Checo Pérez en difficulté hein, hier qui rentre même pas en Q3. Piastri, on l'a dit, rétrogradé de trois places sur la grille, qui ne partira que cinquième. Deux autres surprises, ou alors je parle sous ton contrôle, demi-surprise. Dans les 10 premiers, je pense à Tsunoda et Hülkenberg.
Absolument. Mais alors Tsunoda, il fait une saison absolument formidable.
Il est étonnant, ouais.
Ah ben là, ça y est, il est arrivé à maturité, le petit japonais, et il en manquait, il en convient lui aussi, il est d'une honnêteté à la japonaise, tu sais, il a dit qu'effectivement, il n'était pas jusque-là bien à l'aise dans ses baskets, et là, ça RB, tu sais, alors c'est compliqué, hein, c'est l'ancienne AlphaTauri, l'ancienne Toro Rosso, c'est la petite équipe Red Bull, si tu préfères, qui est d'ailleurs, dont l'usine est à un
la régionale de l'étape, oui.
La régionale de l'étape, c'est exactement ça, et ben il est dans une forme éblouissante, il se qualifie septième, ce qui pour lui est absolument fantastique. Il faut savoir que le patron de l'équipe, c'est Laurent Méquies, hein, c'est un Français, maintenant également. Donc on a quand même deux Français patrons d'équipe en Formule 1, ça fait toujours plaisir, évidemment.
Bien sûr.
Avec Ferrari, bien sûr. Et puis tu parlais, et tu as raison, de Nico Hülkenberg, lui aussi, plus que jamais, alors l'Allemand de 37 ans.
Il a fait un festival en qualif hier, hein.
Ah bah attends, c'est grandiose.
Il a fait peur à tout le monde. Pour son premier Grand Prix d'Italie, en plus, Grand Prix d'Émilie-Romagne, oui, je crois qu'il ne l'avait jamais couru.
Mais c'est ça, c'est complètement incroyable. Les hasards du... À 37 ans, les hasards du calendrier, et puis c'est plus un perdant de l'année, hein, non, lui non plus. Ça, ouais. Bah ouais, mais non, il est effectivement étonnant et il est conforté maintenant. Tu sais qu'il va changer d'équipe hein, pour 2025 et au-delà. Il va dans l'équipe, la future équipe Audi, qui s'appelle Sauber pour le moment. Mais Audi va débarquer en Formule 1 avec des moyens énormes. Et ils avaient besoin, semble-t-il, d'un pilote allemand d'expérience. Et ils ont choisi Hülkenberg. C'est un choix surprenant, mais c'est pas un mauvais choix du tout, la preuve. Hein. Pour le moment, celui qui est sur la sellette chez Haas, c'est Magnussen, Kevin Magnussen, qui lui... Alors bon, on l'a dit, il a été gêné en l'occurrence par Oscar Piastri, hein, mais bon, il n'est pas du niveau d'Hülkenberg, c'est parfaitement clair pour le moment. Hülkenberg est domine de la tête et des épaules. Alors je rappelle qu'ils ont un moteur Ferrari aussi, hein, donc c'est pas nul non plus. Bon, écoute, ça va être un, je te le vends bien évidemment, j'espère. Ça va être un Grand Prix intéressant. Alors c'est du côté de Mercedes où on est un petit peu en berne, j'ose dire, parce que là c'est moins bien, hein, avec Russell 6e et Hamilton 8e. Ben, on a fait ce qu'on a pu, mais on sent que c'est un petit ton en dessous. Et puis c'est conforme au classement du championnat où Mercedes est 4e avec 64 points, bien loin de McLaren, 3e qui en a quasiment le double, ouais. Hein, 124. Donc Mercedes se bat avec Aston pour le moment. Alors là aussi, c'est une petite déception.
Avec,
ouais.
Avec Alonso en dernière position. Jean-Luc, comme à chaque présentation de Grand Prix, c'est la question pour terminer. Bon, ouais. Que faut-il attendre de la course de nos Français? Ocon 12e, Gasly 15e. Après, on le rappelle, le premier point de la saison pour l'écurie Alpine avec la 10e place de Ocon la semaine dernière, je crois, à Miami.
C'est ça. Alors, écoute, il y a une tentative de semblant de début de redressement. Est-ce que je l'ai bien dit?
Oui, on a compris l'idée en tout cas.
Voilà, bon, non, c'est un peu moins mal, on va dire ça comme ça. Oui. On est dans le ventre mou, le ventre dur, comme tu veux. On partira 12 et 15. C'est vrai qu'en partant 12e, et puis Esteban en course, il est toujours solide, etc. Bon, il y a moyen peut-être de grappiller un point avec des circonstances de course. Pierre aussi. Pierre, il a pas eu de chance en qualif. Il aurait pu être au niveau d'Esteban ou même un poil devant, peut-être dans les 11, 12, ouais. Bon, c'est pas encore assez, hein, faut être clair, hein. On redresse la barre tout doucement, mais on est encore loin du compte. À la régulière, on n'y est pas. Alors, on va voir en course les stratégies adoptées et puis surtout les circonstances de course. On va croiser les doigts pour l'équipe française Alpine et pour ses pilotes français, pour lesquels d'ailleurs Bruno Famin, le manager, je sais pas si c'est une bonne idée, mais a dit, oh ben, c'est pas grave, si on n'a pas des pilotes français la saison prochaine, on fera autrement. Bon. Bon, c'est pas la manière peut-être de s'exprimer, à mon avis, hein, je me mouille un peu, quand on a ces deux pilotes, voilà. Bon, on verra ce qui se passe, en tout cas, on croise les doigts pour eux.
Et en tout cas, on se régalera comme chaque week-end le 7e Grand Prix d'une saison qui révèle encore un petit peu de suspense. On y croit. En tout cas, oui, Max Verstappen en pole position comme d'habitude. Lando Norris, le pilote McLaren qui a gagné à Miami la semaine dernière, qui sera lui également en première ligne. 15h extinction des feux, course à suivre évidemment en direct sur RMC. Avec toi, Jean-Luc Roy, aux commentaires à tout à l'heure. Sur l'antenne, l'Intégral Sport revient dans un instant, un petit détour par l'actualité, puis on se projettera sur le rideau qui tombe sur la saison de Ligue 1 Multiplex ce soir à 21h. Un point sur tous les enjeux qui restent, ils sont nombreux, avec Sébastien Piocelle qui va me rejoindre dans quelques instants. Vous ne bougez pas, on revient tout de suite sur RMC.
RMC, Intégral Sport,
Simon Dutin.
Le retour de l'Intégral Sport, 14h04, vous êtes bien sur RMC, on est ensemble en direct jusqu'à 15h avant de passer la balle à Benoît Boutron. La suite de l'Intégral Sport autour notamment du Grand Prix d'Émilie-Romagne, la Formule 1, 7e manche de la saison, Max Verstappen en pole position, extinction des feux à 15h. Retenez bien évidemment ce grand rendez-vous. Dans un instant, on va se projeter sur les derniers enjeux qui restent. Ils sont nombreux en Ligue 1, 34e et dernière journée à vivre en multiplex ce soir à partir de 21h sur RMC. On va aller voir tous nos envoyés spéciaux au stade. Sébastien Piocelle m'a rejoint dans ce studio, notre consultant de la Dream Team. Salut Seb.
Salut Simon, bonjour à tous.
Ça va?
Ça va. Ouais. Simon, quel teint?
Oui, Simon, quel teint. Ah, bronzé.
Ah ouais.
Oui, ah ben j'ai joué un petit peu au golf avec le Media Golf Club.
J'ai vu.
C'est l'équipe de RMC. Présidé par Gilbert Bribois, je joue avec Jean-Christophe Drouet. Voilà, cette semaine, vous saurez tout sur les réseaux sociaux. T'es en forme avant cette dernière journée. On adore ça, les multiplex de printemps, là, cette dernière journée. Alors, c'est réglé pour le titre, mais le maintien et l'Europe, il y a encore des enjeux, ils sont nombreux, je le disais.
Ouais, il y en a pas mal. Et puis, il y a eu des belles surprises, notamment Brest. J'ai envie de voir comment ça va se terminer, troisième, quatrième. Après, il n'y a pas trop d'enjeux. Bon, on va peut-être faire monter un peu la sauce, mais pour le maintien, en tout cas pour la place de barragiste, au cas où, quand on ne sait jamais.
On en parlera de Brest avec Xavier Grimaud, notamment. C'est à suivre, évidemment, dans l'Intégral Sport. Avant ça, vous le savez, la promesse de RMC, c'est le live sur tous les grands événements qui font l'actualité sportive. On part sur la route du Tour d'Italie, le Giro, 15e étape, Johan Bredov. Où en est-on? Est-ce que ça a bougé un petit peu?
Non, ça n'a pas bougé. Il reste 87 km à parcourir. Toujours les mêmes hommes en tête avec Bayer, Ballerini, Scaroni, Wood, Pellizzari et Tonelli. Voilà, 6 hommes en tête. Et le groupe derrière qui est revenu quand même à 44 secondes. Donc ça revient pour le groupe Julien Alaphilippe, parmi lesquels on compte aussi Lilian Calmejean, Enzo Paleni ou encore Ewen Kostiou. Voilà, pour les Français présent. Il y a Michael Storer aussi, c'est lui le coureur le mieux classé au général. Mais derrière aussi, ça roule comme tout à l'heure, la Team Emirates, l'équipe de Tadej Pogacar, qui ne veut pas laisser une miette aux autres. 4 minutes et 35 secondes seulement de retard pour le peloton maillot rose. Et on va rentrer dans 7-8 km maintenant sur le Passo del Mortirolo, classé en première catégorie, 12,6 km, 7,6% de moyenne et des passages à plus de 16%. Donc voilà, ça va commencer à se compliquer pour cette étape. Il reste 86,3 km à parcourir.
Et ça grimpe, tu l'as rappelé, évidemment, en fin d'étape. On verra si le peloton a repris d'ici là les échappées et si le glouton, comme tu l'as surnommé, Pogacar, tente de s'arroger la victoire d'étape. Réponse tout à l'heure sur RMC, à tout à l'heure. Johan, tenez, tiens, peut-être que Julien Alaphilippe va nous sortir encore un numéro dont il a le secret, lui qui a remporté la 12e étape de ce Tour d'Italie. Patrick Lefebvre, le truculent manager belge de l'équipe du Français, l'équipe Soudal Quickstep, sera l'invité exceptionnel de Bartoli Time entre 19h et 20h autour de Marion et Jean-Christophe Drouet. Retrouvez, ne manquez pas donc cette interview, parce que il est plein de bons mots, hein, je le disais, le manager belge, et puis il a souvent été un petit peu dur, il a souvent tensé Julien Alaphilippe. On verra si la victoire de son double champion du monde de coureur lui arrange un petit peu les rapports entre les deux hommes. On a plein de questions à lui poser, Jean-Christophe et Marion. Donc interview Patrick Lefebvre, Bartoli Time, 19h 20h sur RMC. Mais comme promis, à combien, alors il faut que je calcule, à un petit peu moins de 7 heures du coup d'envoi de la dernière journée de la saison de Ligue 1. On va se projeter un petit peu sur les enjeux qui restent en Ligue 1, en bas de classement évidemment pour le maintien. Et puis en dessous du Paris Saint-Germain pour les places en Coupe d'Europe avec Sébastien Piocel, notre consultant, membre de la Dream Team. Honneur aux champions, au Paris Saint-Germain qui se déplace sur la pelouse du FC Metz. Non pas que ce match revête un enjeu particulier pour les Parisiens, mais une info quand même qui a animé un petit peu la matinée dans les rédactions sportives, n'est-ce pas, Arthur Perrault? Salut.
Salut messieurs, bonjour à tous.
Salut Arthur.
Arthur, ce sera sans Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé écartés du groupe parisien pour le déplacement à Metz, c'est ça ?
Oui, c'est vrai que c'est la surprise de la journée avec ce groupe parisien publié ce matin à 10h sur le compte X, ex-Twitter du club. Kylian Mbappé qui n'y figure pas, tout comme Gianluigi Donnarumma, Fabian Ruiz, Vitinha ou encore Ousmane Dembélé. Alors au club, on avance une gestion de l'effectif et du temps de jeu de chacun avant la finale de Coupe de France le 25 mai. Ce sera face à Lyon. Et pour vous donner un peu plus de détails, ces cadres qui ne sont pas dans le groupe vont pouvoir profiter de 3 jours de repos, puisque Luis Enrique a décidé de convoquer l'ensemble du groupe pour une reprise de l'entraînement au Campus PSG seulement mardi après-midi. Donc voilà, certains joueurs vont pouvoir profiter de ces 3 journées pour passer du bon temps. C'est le cas notamment de Kylian Mbappé qui est en ce moment sur la Côte d'Azur en famille. Voilà.
Seb, Kylian Mbappé pas dans le groupe parisien, c'est-à-dire pas de dernier match pour lui dans sa carrière en Ligue 1. Bon, certes, c'était à l'extérieur, mais c'est un petit peu surprenant quand même. Sur le banc, on aurait pu comprendre, mais pas dans le groupe. Ça, t'es pas un petit peu étonné, toi, par la décision du coach espagnol?
C'est pas ça qui me choque sur le fait qu'il joue pas un dernier match. Bon, voilà, c'est surtout le temps qu'il y aura eu entre son dernier match et puis la finale
de Coupe de France.
Voilà, de la finale de Coupe de France. Bon, c'est le cas pour lui, mais c'est le cas aussi pour Dembélé, forcément, mais qui lui sera encore parisien. Mais dans cette gestion-là, purement sportive et athlétique, du coup, j'arrive pas à comprendre la décision de Luis Enrique et du staff.
Arthur.
Ce qu'on peut rappeler, c'est que le dernier match de Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé dont tu parles, Seb, c'était face à Toulouse, juste avant la fameuse cérémonie de remise du trophée, le 12e titre de champion de France du Paris Saint-Germain. On peut aussi rappeler les récentes déclarations de Luis Enrique par ordre chronologique. D'abord, il y a quelques mois, où on se souvient que Luis Enrique disait et répétait « Je prépare déjà la saison prochaine sans Kylian Mbappé ». On peut aussi repenser à ces mots justement après ce fameux match face à Toulouse où il n'avait pas été du tout satisfait de la prestation de ses hommes et notamment de Kylian Mbappé qui donc dans la foulée n'a pas été retenu pour le déplacement à Nice. Et puis pour terminer, ces mots hier en conférence de presse de veille de match où il dit très clairement: moi aujourd'hui je n'ai qu'un seul objectif, c'est soulever ce dernier trophée, cette Coupe de France face à Lyon le 25 mai, donc samedi prochain. Et en attendant, ce match contre Metz, c'est pas qu'il n'y a pas d'enjeu ou qu'il ne l'intéresse pas, mais il ne va même pas s'en servir comme répétition. Et ça, il ne s'en cache pas, Luis Enrique.
Seb, on achète la version, c'est pour qu'il soit en forme pour la Coupe de France. Tu viens de soulever un problème de rythme. Est-ce qu'on peut imaginer que, par exemple, Mbappé ne soit pas titulaire la finale?
Non, je l'imagine pas, il sera titulaire. Mais moi, ce qui me gêne, c'est que si on fait un petit retour en arrière depuis l'annonce du départ officiel de Mbappé, c'est que il y en a beaucoup qui ont souligné, on va dire, le fait que Luis Enrique ose, on va dire, mettre Mbappé sur le côté, en gros, et qu'il assume en fait ses choix. Mais si on fait un bilan avant cette finale, moi je parle du rendement de Mbappé, ça n'a jamais été plus le même joueur en fait depuis ce moment-là, parce que aller l'idée de préparer une saison prochaine dès le mois de janvier, je trouvais ça un petit peu démesuré ou incongru. Mais là, le problème, c'est que finalement, il a perdu son meilleur joueur, l'un des meilleurs joueurs du monde, je trouve, sur la deuxième partie de saison. Bien sûr, il y a eu par moments des matchs où il a marqué, où il a scoré, où il a été décisif, parce que c'est Mbappé. Mais je trouve que le fait que il est moins joué, donc moins de rythme, le fait qu'il ait moins d'importance dans le vestiaire, on sait qu'un ego surdimensionné, on ne pourrait même pas imaginer Messi ne pas jouer quasiment tous les matchs. À un moment donné, je trouve que voilà, il a pas réussi son pari, et le fait là sur cette fin de saison, de plus de le mettre à l'écart là pendant deux semaines avant la finale, parce qu'on sait aussi que lors des grands rendez-vous, on disait qu'il osait, mais dans les grands rendez-vous, il a toujours aligné quoi qu'il arrive. Donc voilà, moi je trouve, je sais pas comment il arrivera à Mbappé, je sais pas si les 7-3 jours sur la Côte d'Azur vont lui faire du bien, mais en tout cas, je trouve pas que ce soit une bonne gestion de sa part.
Bon, Kylian Mbappé, donc, on le rappelle, c'est l'une des infos de la journée, qui n'est pas dans le groupe parisien pour le déplacement face à un FC Metz, bon, qui doit se frotter les mains, parce que, Arthur, rappelle-nous, Kylian Mbappé n'est pas le seul titulaire habituel parisien à manquer le déplacement à Metz. Hein.
Ouais, il y a beaucoup de cadres, de Gianluigi Donnarumma, Fabian Ruiz, Vitinha ou encore Ousmane Dembélé, qui lui aussi récemment a connu un peu le même traitement. Quand on regarde le groupe retenu par le Paris Saint-Germain, on peut citer Ethan Mbappé, qui lui, c'est tout le paradoxe de la situation, figure bien dans ce groupe retenu par Luis Enrique, le jeune Selim Ayoulou, qui va signer lundi son premier contrat professionnel avec le Paris Saint-Germain, le jeune Zague aussi, Arnaud Tenas, qui d'ailleurs, c'est la tendance de l'après-midi, ça sera confirmé, devrait débuter cette rencontre à la place de Keylor Navas, qui pourtant aurait eu l'occasion de débuter son dernier match de Ligue 1. Et puis voilà, pour ne citer que, on a quand même une équipe et un groupe déjà largement remanié qui va faire ce déplacement pour cette ultime journée de championnat.
Seb, quelque chose à rajouter?
Bah ouais, du côté l'orienté, même s'il y a très très peu d'espoir, ils doivent quand même se dire que les dés sont un peu pipés, mais bon, voilà, même si
on en parlera 17e derrière Metz, 16e, la lutte pour le maintien, on en parlera tout à l'heure à partir de 14h30 dans l'Intégral Sport, et on sera avec Patrick Muller qui nous commentera évidemment ce Metz Paris Saint-Germain. Merci beaucoup Arthur d'avoir pris le temps de passer par l'Intégral Sport, et à très vite sur l'antenne de RMC. À tout à l'heure même. On a parlé du Paris Saint-Germain, comme on n'a pas envie d'avoir de problème, on va parler de
l'OM.
Oui, tu connais un petit peu la musique. Toi aussi, l'OM en déplacement sur la pelouse du Havre. C'est l'une des 9 rencontres de cette 34e journée de Ligue 1 à suivre en multiplex à partir de 21h sur RMC. Et ce sera avec l'immense Aurélien Tiercin au commentaire, évidemment. Salut Aurélien.
Salut les amis, salut à tous. Aurélien.
Alors, les enjeux pour les Marseillais, pas facile. C'est le deuxième déplacement d'affilée, défaite à Reims cette semaine. Est-ce que l'OM y croit encore? Est-ce qu'il y a de l'espoir côté marseillais, Aurélien?
Moyennement. Alors il y a beaucoup d'enjeux, et en même temps il y en a pas beaucoup, parce que alors sur le plan comptable, il y a de l'enjeu, puisque l'Olympique de Marseille est 8e avec 47 points à 3 points de l'Olympique Lyonnais et du Racing Club de Lens. Dans le meilleur des cas, dans le meilleur des mondes, l'OM s'impose au Havre, Lens et Lyon perdent. Dans ce cas-là, l'OM passe 6e, puisqu'en plus il y a une meilleure différence de but côté marseillais, et tu termines 6e, tu es en Ligue Europa Conférence. Après, il y a des Marseille européens. Si une des deux équipes s'incline, par exemple, Marseille termine 7e, et en fonction de l'identité de l'équipe qui sera devant, si c'est Lens par exemple, mais que le Paris Saint-Germain gagne la Coupe de France, l'OM sera européen. Et il y a un dernier cas de figure où si c'est l'Olympique Lyonnais qui termine 6e, l'OM 7e et Lens 8e, encore une fois c'est relativement improbable, mais que Lyon gagne la Coupe de France, dans ce cas-là, l'Olympique de Marseille aura droit également à son tour préliminaire de Ligue Europa Conférence. En tous les cas, c'est pas la Coupe d'Europe rêvée par les Marseillais, surtout dans une saison où tu as 4 qualifiés en Ligue des Champions. Ça restera une saison ratée, mais pour attirer un nouvel entraîneur l'année prochaine, une Ligue Europa Conférence, c'est déjà ça. Et malheureusement, c'est encore plus improbable pour les Marseillais, puisque c'est la plus mauvaise saison à l'extérieur depuis 25 ans quasiment. Voilà, deux victoires à l'extérieur à Lorient et à Clermont. Alors Le Havre, c'est également un prétendant au maintien ou à la descente en fonction de la vision. Donc c'est peut-être un des meilleurs endroits pour s'imposer, mais l'OM en ce moment est incapable de produire du jeu à l'extérieur.
Alors Seb Piocelle s'est concentré pour ne pas saigner du nez là, lorsque tu nous donnais les différents scénarios qui enverraient l'OM en
Coupe
d'Europe. Seb, l'OM a laissé passer sa chance, notamment à l'extérieur cette saison. C'est pas ce soir que l'OM va rater sa saison. Tu les vois comment, toi?
Ouais, bon, déjà sur ce que disait Aurélien sur l'OM cette année à l'extérieur, même si c'est Le Havre et que a priori eux aussi ils ont fait le job la semaine dernière, donc il y a plus trop
15e avant cette journée,
Le Havre, il y aurait plus trop d'enjeux, mais voilà, j'ai l'impression qu'il y a plus d'essence dans le moteur. Il y avait eu l'effet Gasset rapidement, et puis on s'était imaginé une sorte de remontada, plus en parallèle le parcours européen, donc où finalement ça a laissé tout le monde concentré sur ses objectifs. Mais c'est vrai que là, depuis l'élimination en Coupe d'Europe, tous ces joueurs aussi blessés, en fait j'ai l'impression que cette saison-là, entre le recrutement donc du début de saison, même les mauvais choix des recrutements qui a été fait aussi mercato d'hiver avec ces joueurs qui pouvaient pas être inscrits sur les feuilles de match de Coupe d'Europe, plus ces changements d'entraîneur, voilà, c'était trop, je pense, cette année pour l'OM, même si, comme disait Aurélien, c'est dommage parce que c'était une année où les quatre premiers pouvaient se qualifier pour la Ligue des Champions, et quand on voit les équipes qu'il y a devant, et surtout quand on voit Lyon qui est devant et qu'on se remémore il y a quelques mois où étaient les Gaunes, c'est sûr, hein, c'est une saison ratée par les Marseillais, et malgré tout, pour avoir été au Vélodrome de temps en temps, ils ont été soutenus, mais d'une force incroyable tout le long de la saison. Donc est-ce que c'est le moment, quoi qu'il arrive, de repartir sur un nouveau chapitre avec les mêmes dirigeants ou pas, mais en tout cas avec un nouvel entraîneur, et puis certainement un grand chambardement, mais ça on est habitué à l'OM depuis les intersaisons.
Et Simon, dernière petite galère pour les Marseillais. On avait Amin Harit et Ismaïl Assar qui étaient un petit peu légers musculairement. Et ce matin, on a eu le groupe de l'Olympique de Marseille et ils seront bien absents. Donc pas de Ounahi, pas d'Harit, pas de Sarr dans le secteur offensif. Alors même avec eux, c'est pas flamboyant, mais sans eux, c'est encore pire. Donc il y aura Pierre-Emerick Aubameyang qui sera bien présent, mais pas de Sarr, pas d'Harit autour de lui. Chancel Bemba était aussi sur la tangente et lui sera bien présent dans le groupe marseillais.
Bon, tu as devancé ma question, évidemment, sur le groupe marseillais sur la pelouse du Havre. Difficulté supplémentaire pour une équipe, tu vous l'avais rappelé, très très mal en point à l'extérieur cette saison. Match à suivre à 21h dans le multiplex sur RMC. Aurélien Tiercien aux commentaires. Merci beaucoup Aurélien, et à tout à l'heure sur l'antenne de RMC. Vous ne bougez pas, on va se quitter dans quelques instants, non sans avoir fait un petit détour par la route du Tour d'Italie, 15e étape du Giro. Johan Bredov, est-ce que ça a bougé en tête de la course, derrière les échappés?
Ouais, ça a craqué du côté des échappés avec, ils sont plus que 4, Scaroni, Wood, Pellizzari et donc Tonelli sur les premières pentes du Passo del Mortirolo, et 56 secondes d'avance sur le groupe Alaphilippe et 4 minutes et 52 secondes d'avance, là ça n'a pas bougé sur le peloton du Maillot Rose Tadej Pogacar.
Bon, et chez UAE on chasse,
bah oui, ouais, bien sûr, on reste sur un rythme assez soutenu quand même pour la team Emirates, qui a envie quand même de garder cet écart en dessous des 5 minutes pour pourquoi pas aller chercher les échappées lors des deux dernières difficultés tout à l'heure. Mais voilà, on sent les visages crispés, notamment pour les premiers équipiers de Tadej Pogacar qui vont lancer la fusée, et ça craque d'ailleurs dans le peloton. Mais voilà, Tadej Pogacar qui est lancé, non seulement il va vouloir peut-être prendre encore un petit peu plus d'avance au général, mais pourquoi pas aller chercher une autre victoire d'étape, la quatrième, ce serait la quatrième sur ce Giro.
Assurer une première victoire pour lui dans sa carrière sur le Tour d'Italie avec panache, évidemment, panache qui est synonyme de Pogacar. Voilà, vous le savez désormais puisque vous suivez le cyclisme sur RMC. Merci beaucoup Johan, on se retrouve pour la suite et la fin de cette 15e étape du Tour d'Italie. On est toujours avec Sébastien Piocel, notre consultant, membre de la Dream Team. On se projette dans quelques instants sur les enjeux qui restent nombreux au cours de cette dernière journée de Ligue 1, la 34e, à suivre en multiplex à partir de 21h sur RMC. Vous ne bougez pas, l'Intégral Sport revient dans quelques secondes à peine sur RMC.
RMC Intégral Sport, Simon Dutin.
À 14h24, vous êtes bien sur RMC, évidemment, le temple du sport à la radio, comme chaque week-end, en compagnie de Sébastien Piocel, notre consultant membre de la Dream Team. On se projette sur les enjeux de la 34e et dernière journée de Ligue 1, sur en multiplex sur RMC à partir de 21h. À 15h, on passera la balle à Benoît Boutron, Intégral Sport, suite autour notamment du Grand Prix de Formule 1 d'Emilie Romagne sur le circuit du Mola. Max Verstappen, évidemment, encore une fois, en pole position devant Lando Norris. Les McLaren qui confirment qu'ils sont en ce moment la deuxième force du paddock. La 15e étape du Giro, le Tour d'Italie, Pogacar qui veut même la victoire d'étape. Lui qui a l'occasion d'assurer aujourd'hui peut-être une première victoire dans sa carrière dans le Tour d'Italie. On retrouvera Johan Bredow sur la route du Tour. Avant de parler ballon Ligue 1 et de retrouver nos envoyés spéciaux au stade, votre défi qui ne manque pas de sel, vous le savez, c'est l'heure du défi hippique avec Fred Pita.
Salut Simon, salut à tous. Effectivement, c'est l'heure du défi hippique avec aujourd'hui rendez-vous dans le temple de l'obstacle, hein, sur l'hippodrome d'Auteuil pour la plus belle course d'obstacle au monde, le Grand Steeplechase de Paris. Il y a 6000 mètres à parcourir, 23 obstacles à franchir, une course qui dure à peu près 7 minutes. Et dans le défi hippique, on a toujours un parieur qui vient nous rejoindre pour nous donner son favori. Aujourd'hui, au 32-16, on a François. Salut François, comment vas-tu ?
Salut Frédéric, ça va bien, merci.
Alors, quel est ton favori dans ce Grand Steeplechase de Paris ?
Ouais, une épreuve magnifique avec un phénomène, Runtos Ganamos, je n'invente rien, le 14. Un cheval parfait, David Cotin n'a jamais eu touché un cheval comme ça en tant que jockey et même maintenant en tant qu'entraîneur. Il n'a jamais gagné, 4 fois second, mais je pense qu'il va le gagner en tant qu'entraîneur aujourd'hui.
C'est noté, merci beaucoup François. Juste pour préciser, hein, le 14 c'est actuellement le favori. Il est à 2,90€, c'est-à-dire que si un parieur joue 10€ en simple gagnant sur ce cheval, il gagnera donc 29€. Du côté d'RMC, on va lui opposer le deuxième favori, hein, le numéro 6, Grandeur Nature. C'est un concurrent qui vient d'effectuer une rentrée victorieuse en haie. Il est également très performant sur le Steeplechase. Il a gagné le prix à Ejousselin sur 5500 mètres l'automne dernier. Il a donc la distance dans les jambes et il devrait réaliser une très belle performance ici. Je rappelle la règle, François, c'est ton numéro 14, Runtos Ganamos, terminé dans le numéro 6, Grandeur Nature. Tu seras de nouveau avec demain. Je te souhaite bonne chance, un très bon quinté à 16h05 en direct sur RMC.
Les jeux d'argent et de hasard peuvent être dangereux. Perte d'argent, conflits familiaux, addiction. Retrouvez nos conseils sur joueurs-info-service.fr et au 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
Merci beaucoup Fred Kita, à l'arrivée de ce Grand Steeplechase de Paris à suivre en direct à 16h05 sur RMC autour de l'ami Benoît Boutron. Comme promis, on va se projeter sur les enjeux de la 34e et dernière journée de Ligue 1. 9 rencontres à suivre en multiplex sur RMC à partir de 21h. Vous n'aurez rien manqué encore une fois cette saison du foot en France. On va se projeter sur ce qui fait un petit peu le sel de cette dernière journée, la course aux places européennes avec nos envoyés spéciaux sur les stades, Edouard G, Jean Baumel, Xavier Grimaud. Bonjour messieurs.
Salut Simon, salut Seb.
Salut messieurs.
Salut les copains.
Salut Simon, salut Seb.
Qu'est-ce qu'on aime, c'est bonjour là, cette chorale de commentateurs là, ils sont chauds, ils sont
bravos. On a profité, c'est la dernière, hein, Simon.
Et oui, mais
c'est pas les meilleurs, mais ils sont sympas.
Ça chambre. Mais oui, petite question messieurs, tenez toute simple, vous êtes tristes vous quand c'est la fin de saison là, quand
on a un peu de matchs, on a déjà des matchs en moins par rapport à la saison dernière.
Bah oui,
on a 4
oui,
journées en moins, donc 4, déjà ça nous fait un peu mal. Mais non, écoute, après.
Bah moi j'en ai encore. Hein.
Oui, c'est vrai.
J'ai la Coupe de France la semaine prochaine. J'ai éventuellement aussi un beau parcours pour Saint-Etienne. Voilà,
les play-offs,
ma saison n'est pas terminée.
Mais les trois qui parlent, ils sont quand même assez bien lotis quand même.
J'en ai un sûr en Coupe d'Europe, voire deux.
Et ils ont vécu une belle saison, puisque on le rappelle, messieurs, vous êtes là pour nous parler de la lutte pour les places européennes des clubs dont vous avez l'habitude de commenter les rencontres chaque année sur RMC.
On va peut-être Simon, si on avait prévu d'être ensemble à ce moment-là de la saison au mois de décembre, je t'aurais dit. Non, mais c'est bon.
On pensait pas que tu serais avec nous, là.
Exactement. Plutôt sur les dernières places, non.
Édouard G, qui s'est invité dans cette course à l'Europe grâce au redressement spectaculaire opéré par l'Olympique Lyonnais depuis que Pierre Sage est arrivé sur le banc lyonnais. On va parler de l'Olympique lyonnais dans quelques instants, qui a l'occasion de faire quelque chose d'historique avec la réception de Strasbourg en cas de victoire ce soir au Groupama Stadium. Mais peut-être tout d'abord honneur à Djibo, Jean Baumel, parce que on va parler des clubs du Nord. On va faire ça dans l'ordre du classement. Lille et Lens qui peuvent tous deux se qualifier pour la Coupe d'Europe l'an prochain. On démarre avec Lille, parce que pour Lille, c'est la coupe aux grandes oreilles en point de mire.
Bah ouais, écoute, ça sera la troisième fois sur les six dernières années, ouais. Hein, parce qu'on considère que le barrage, c'est quand même la quatrième place. Quand même, on parle de Ligue des Champions, même si c'est pas acquis pour disputer la nouvelle formule, mais c'est vrai que ils ont réussi à faire enfin la bascule, chose qu'ils avaient toujours du mal ces dernières saisons, dès qu'ils avaient une opportunité de passer devant un concurrent direct. Bien, ça ne s'est pas fait. L'année dernière, ils avaient chuté lors du dernier match. Hein. Au lieu de faire l'Europa League, eh bien, c'est un match nul contre 3 et Rennes qui est passé devant, qui a fait donc cette Europa League et Ligue de la Conférence. Donc là, cette fois, ils ont réussi eh bien, à basculer la semaine dernière en gagnant à Nantes et passer devant Brest pour être sûr, pour l'instant, être en position de se qualifier directement. C'est important parce que, le barrage, on va pas refaire l'histoire, mais c'est vrai qu'il y a l'aspect recrutement, parce qu'il y a la certitude. Garder les joueurs, c'est un peu plus compliqué parce qu'on n'est pas sur le coach ouais. Voilà, Fonseca qui laisse entendre une incertitude. On a plus l'impression hier en conférence de presse qui a envie d'avoir une évolution dans sa carrière. Mm-hmm. On sait que l'AC Milan est sur lui, mais il y a aussi un autre élément tout bête pour Lille aussi, c'est que si à barrage, le premier tour qui est début août pourrait pas se faire à domicile puisque le stade Pierre-Mauroy sera pris par les Jeux.
Oui,
avec le basket et le handball, donc on parle d'une solution de secours, parce qu'il faudra remettre enlever le parquet, tout remettre en place. De toute façon, déjà la première semaine d'août, il y a un match de barrage, donc on ne sait pas s'il sera à l'extérieur ou à domicile pour Lille éventuellement, mais en tout cas le stade ne sera pas prêt et les bruits qui courent, ça serait peut-être de se replier sur Valenciennes, un stade de 25 000. Ouais. Bon, on n'y est pas là, mais non. Ça fait un argument encore en plus pour ne pas finir quatrième.
Oui, et puis même dans son stade, c'est déjà un traquenard, ce barrage là coincé à la sortie de l'été. Seb, la troisième place pour Lille, ce serait mérité selon toi?
C'est dommage pour Brest parce que au vu de la saison, on a souvent parlé même avec Xavier, c'est vrai que se retrouver là alors que ils ont été deuxième, troisième, même presque plus souvent deuxième, mais bon, finalement ça reste quand même historique. Mais après, comme dit Gibault, en fait Lille ils ont vraiment passé un palier, et là aussi on en a souvent parlé que les dernières saisons, à chaque fois les matchs un peu couperets, les matchs où il fallait prendre des points, je crois que c'était même, on avait pris l'exemple de, je crois que c'était le Lille-Rennes où ils avaient été menés rapidement 2-0, ils étaient revenus
à 2-2, ouais.
Voilà, donc je pense qu'ils ont changé un peu de mentalité. Le parcours européen, je pense, leur a fait du bien aussi. Donc ouais, globalement, c'est mérité. Et puis j'aime vraiment ce qu'a fait Fonseca. Quoi. Il a transformé cette équipe. Ouais. Il a transformé même certains joueurs, notamment même sur des positions. Donc ouais, ils sont. J'ai envie de dire qu'ils sont quand même à leur place.
C'est la première fois d'ailleurs de la saison qu'ils sont troisième. Hein. Ils ont basculé il y a une semaine. Et sinon, ils étaient toujours proches, mais ils avaient jamais occupé la troisième place.
Bon, réponse à partir de 21h.
Alors, des petites infos importantes quand même sur le match.
Petite question sur le groupe. Nice, ce soir. Alors,
Nice, il y a pas mal d'absents, mais à Lille aussi, il y en a des absents importants.
Nice, ça ne peut rien à jouer, Nice. Hein, ils sont entre Brest et Lens.
Ils sont sûrs d'être cinquième. Ouais. Manonnet, qui va être donc titulaire, puisque Lucas Chevalier s'est fait opérer d'une arthroscopie du genou, hein, donc au niveau du ménisque. Normalement, il devrait être opérationnel pour les Jeux. Donc, bonne nouvelle pour Thierry Henry. Et puis, c'est Thiago Santos, hein, qui est pour moi l'une des révélations du championnat, le latéral gauche, latéral droit portugais, qui a fait une saison extraordinaire, qui a pris un coup à Nantes et protocole commotion, il peut pas jouer ce match. Donc on l'aura déjà quitté à sa place. Yoro Alexandro dans l'axe, Ismaili à gauche, Bentaleb André au milieu de terrain, puis Aralson, Angel Gomez, Zegrova, et puis David bien sûr le meilleur buteur, sachant que Yazice n'est pas remis de sa blessure, et c'est donc la fin de l'aventure pour lui puisqu'il est libre à partir du mois de juin pour l'international turc. Du côté niçois, beaucoup d'absents. Hein. Dante, Sanson et Melvin Barr qui est suspendu. Et puis on parle aussi de Boulka, Thuram et Todibo qui pourraient être sur le banc afin d'éviter les blessures pour une éventuelle vente et forcément de plus-value pour le GC Nice.
Bon, Lille-Nice, c'est l'une des affiches de cette 34e journée. Tous les matchs qui débutent à 21h, multiplex à suivre en direct sur RMC. Djibo, on revient dans quelques instants te voir pour parler du Racing Club de Lens, évidemment, sixième avant cette journée. Lens qui vise également une place en Coupe d'Europe. Mais avant ça, comme promis, on déroule dans l'ordre du classement. On va faire la passe à Xavier Grimaud, qui va nous parler d'un stade brestois. Xavier, qui peut encore donc viser la Ligue des Champions. Ce serait le couronnement d'une saison exceptionnelle. Les Brestois, je crois, qui ont été un petit peu fâchés, un petit peu agacés par la une de nos confrères du journal L'Équipe, qui ont titré, c'est un petit peu surprenant d'ailleurs, sur Brest aujourd'hui, la fête avant la tempête, point d'interrogation. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ça ?
Oui, alors effectivement, alors au sein du club brestois, pour l'instant on n'a pas forcément communiqué dessus, mais dans l'environnement autour du club, effectivement, notamment aussi beaucoup de supporters sont un peu surpris par la une du jour qui s'intéresse à Brest, qui c'est vrai, voilà, et forcément il y aura forcément peut-être beaucoup de changements à l'intersaison si Grégory Lorenzi venait à partir. Ça a été l'info lancée par le
directeur sportif,
le directeur sportif qui pourrait partir. Info que bon. Selon nous, pour l'instant, je pense qu'il faut un peu la tempérer. Voilà, on peut faire confiance aux collègues de l'équipe, hein, ils ont sans doute leur source. Mais au club, on a été assez surpris de ce timing. Et pour l'instant, ça demande confirmation. C'est pas encore certain. Peut-être que Grégory Lorenzi s'en aille. Mais en tout cas, voilà, c'est peut-être aussi Seb, la rançon des grands clubs. Ils font une grande saison. Du coup, bah, le quotidien national titre sur eux. Alors que c'est vrai qu'il y avait la dernière de Mbappé potentiel, l'OM qui sera peut-être pas européen. Bref, il y avait des sujets habituellement plus vendeurs. Ça montre que Brest s'est invité dans le gratin cette saison et ils ont envie de bien finir, évidemment. Alors, on parlait de la place empoisonnée de la quatrième pour Lille. Si c'est empoisonné pour Lille, c'est quasiment fatal pour Brest, on a envie de dire. Parce que passer un troisième tour préliminaire au mois d'août, puis un barrage. Déjà, quand on voit certains clubs qui sont potentiellement qualifiés pour le troisième tour préliminaire, ce sont des clubs hors catégorie quasiment pour Brest. Donc, on sait que ce serait très compliqué d'atteindre la Ligue des Champions en cas de quatrième place. Même Eric Roy le dit, hein, il l'a dit en conférence de presse, il veut cette troisième place. Donc pour l'avoir, c'est pas compliqué, il va falloir déjà gagner à Toulouse, ce qui sera pas fait parce que Brest, on le voit bien, tire la langue, hein, depuis quelques semaines.
Alors qu'à Toulouse, ça va fort, ouais.
Alors que Toulouse, ça va fort, ils vont essayer de faire la fête. Donc déjà, ça posait à Toulouse. Et puis, on compte sur les Niçois. A priori, Nice est motivé. En tout cas, c'est ce qu'ils ont dit en conférence de presse, que ce soit Farioli ou Marcin Boulka, notamment, qui a dit qu'il voulait gâcher la fête de Lille, comme Paris était venu gâcher la fête à Nice en jouant le jeu lors du match en retard et en les empêchant d'essayer d'aller chercher la Ligue des Champions. Donc espérons que de la parole aux actes, les Niçois fassent ce qu'il faut pour essayer d'accrocher les Lillois et permettre potentiellement à Brest des troisièmes. Après, évidemment, si Brest est quatrième, ce sera une saison extraordinaire. Je crois que les superlatifs, il faut les mettre, parce que Brest ne partait évidemment pas pour jouer ça. Et ils font une saison absolument remarquable. Parfois, c'est le début des problèmes, quand on brille comme ça pour les clubs qui ne sont pas calibrés. Seb, j'imagine que tu es d'accord avec ça. Mais voilà, on ne va pas cracher dessus, évidemment. Mais bon, ça pourrait effectivement bouger assez fortement. Tanguer, même si on est habitué à avoir du vent et de la houle du côté de Brest, ça pourrait tanguer fort dans les prochaines semaines.
Tu veux mon avis sur ça?
Je te propose de le donner.
Il y a tellement de choses à dire et redire sur Brest. Alors, je vais pas parler pour l'instant, en tout cas, de Greg Lorenzi. Ouais. Mais en tout cas, sportivement, c'est clair que c'est une année incroyable qu'ils sont en train de faire. Quand t'as été deuxième ou troisième quasiment tout le long de la saison, enfin une bonne partie de la saison, c'est vrai que se retrouver quatrième, forcément il y aura un peu de déception quand même, parce que la préparation elle est pas du tout la même. Alors je pense que c'est plus simple à préparer pour un club comme Brest cette quatrième place, parce que à la rigueur ils peuvent calibrer un recrutement Europa League finalement, parce que il y a, alors s'ils passent tant mieux, mais il y a moins de chances qu'ils passent. Même si la reprise elle sera beaucoup plus tôt, mais voilà, après par rapport à leur saison, par rapport aussi à l'état d'esprit, ils montent quelque part l'exemple à d'autres clubs, je trouve, qui ont peut-être un peu plus de moyens et que finalement on peut en ayant un vrai projet, en ayant fait ce qu'il fallait, une vraie dynamique, un esprit club, et pour s'inviter dans ce genre de compétition.
Toulouse-Brest, c'est l'une des 9 rencontres à suivre en multiplex de cette 34e journée de Ligue 1. Toulouse-Brest à 21h. Djibo, tu m'excuses, on va passer rapidement sur Lens qui reçoit Montpellier. Lens 6e avant cette journée face à Montpellier qui ne joue plus rien, pour passer la balle à Edouard G, parce que ça pourrait être l'un des événements de cette fin de saison. Lyon, Edouard, tu le disais, qui rêvait de maintien fin décembre et qui rêve désormais d'Europe à l'aube de cette 34e journée.
Oui, à ce moment-là, on pensait que le Lyon-Strasbourg du 19 mai allait être le match pour le maintien. Bah, finalement, c'est un match pour l'Europe. En imaginant même, parce qu'il y a beaucoup de scénarios possibles, que Lyon peut même perdre ce soir et quand même être finir 7e, c'est quelque chose d'incroyable. Je vais boucler ma 26e saison de l'OL. Et franchement, je vais peut-être en rajouter 5 d'un coup, parce que j'ai l'impression d'avoir vécu 5 saisons en une. Tellement ce qui se passe cette saison, c'est vraiment inclassable, inqualifiable, improbable, extraordinaire ou irrationnel, comme vous voulez. Donc ce soir, avec un stade une nouvelle fois plein et un feu d'artifice à la fin, en espérant pour les 57 000 personnes qui seront là, bah, qu'il y ait un feu d'artifice aussi juste avant sur le terrain.
Seb, qui l'eût cru, en effet.
Ah, complètement. Alors là, bon, alors les places européennes, moi, je m'imaginais même à un moment donné Lyon, relégué, parce que c'était tellement, tellement terrible ce qu'ils proposaient. Et puis, il y a un peu ce cirque, un peu autour du club. non, mais c'est vrai, à l'image du propriétaire.
Ouais, propriétaire,
et puis, finalement, il n'y a pas que Pierre Sage, mais. Bien entouré, en fait, cet entraîneur-là, il a réussi à fédérer. Alors, certainement, on n'est pas dans le club. Alors, Edouard, il doit connaître mieux la situation. Mais j'ai l'impression que voilà, il a emmené un petit peu tout le monde dans son projet. Et puis, du coup, ça s'est un petit peu apaisé. Les résultats, après, ça aide aussi. Et puis, finalement, c'est redevenu, on va dire, un club. Normal, on va dire, dans la gestion quotidienne.
C'est peut-être ça, Doudou, la grande force de Pierre Sage, c'est d'avoir réussi à donner cette force mentale extraordinaire à ce groupe lyonnais qui a frôlé la défaite à de nombreuses reprises et réussi à s'en tirer avec la victoire. Je pense au match à Montpellier, notamment, et à d'autres rencontres à Metz également.
Oui, mais je veux absolument pas minimiser tout ce qu'il a fait parce que c'est extraordinaire, mais il faut bien s'imaginer qu'il est arrivé à un moment donné où il y a eu un alignement de planètes, parce que au départ il y a eu les couteaux qui ont été sortis au printemps dernier quand Jean-Michel Aulas a été viré. Faut pas oublier que l'OL, les comptes étaient bloqués fin août, pas de possibilité de mercato, il y a eu des râteaux en permanence, et puis finalement il y a eu un petit peu plus de cerveau au mois de décembre. On a nommé un directeur sportif, on a nommé un directeur général, on a choisi Pierre Sage qui vient après 2 champions du monde quand même, hein, Fabio Grosso et Laurent Blanc. Le mercato qui est là, et alors lui derrière, il a réussi à amalgamer tout plein de choses, mais Pierre Sage, le 5 septembre ou le 15 octobre, dans le marasme, il fait la même chose que les autres. Là, tant mieux, il y a eu tout ça, mais après c'est vrai qu'il y a eu un concours de circonstances qu'il a réussi aussi à mettre tout en place avec son staff, avec le mercato, il y a eu beaucoup de choses, et puis là c'est quand même assez extraordinaire de s'imaginer que Lyon peut être à une finale ce soir pour la Coupe d'Europe. Et puis une finale la semaine prochaine aussi pour la Coupe d'Europe, en plus du trophée de la Coupe de France.
Lyon-Strasbourg à suivre en multiplex à partir de 21h, la fin de la saison de Ligue 1, 34e journée dont vous ne manquerez rien sur RMC. Merci beaucoup Edouard G, à tout à l'heure sur RMC. Vous ne bougez pas, l'Intégral Sport revient dans quelques instants à peine. On prendra un petit moment pour parler de la lutte pour le maintien également. À tout de suite sur RMC.
RMC Intégral Sport, Simon Dutin.
À 14h44, l'Intégral Sport de retour sur RMC. On est ensemble en direct jusqu'à 15h. Pas tout à fait, parce qu'on s'interrompra un peu avant pour ne rien rater du départ du Grand Prix d'Italie, la 7e manche de la saison. On va se dépêcher en compagnie de Sébastien Pocelle qui reste, rassurez-vous, aux côtés de Benoît Boutron jusqu'à 17h. Sur RMC, on va se projeter sur la lutte pour le maintien. C'est l'un des enjeux qui subsiste. 34e journée de Ligue 1 en multiplex à suivre sur RMC. Aurélien Tiercin, Le Havre est encore mathématiquement, juridiquement concerné par cette lutte pour le maintien, même s'il faudrait un sacré scénario quand même pour que les Havrais pour qu'il y ait une mauvaise nouvelle pour les Havrais quand même.
Ouais, exactement. Alors 3 points d'avance sur le FC Metz, donc la place de barragiste. Le Havre en tout cas ne descendra pas directement, ça c'est certain. Mais le gros avantage pour les Normands, c'est la différence de but. -10 pour les Havrais, -21 pour les Messins, donc il faudrait quand même un cataclysme pour voir Metz dépasser Le Havre. Mais le Paris Saint-Germain a envoyé une équipe bis, on peut dire, à Metz. Il y a pas de Mbappé, il y a pas de Dembélé. Alors de là voir Metz coller un 4 ou 5-0 à Paris pendant que l'OM très mauvais à l'extérieur viendrait également mettre un score très large au Havre, c'est vrai que ça semble très très improbable. Mais peut-être que le Paris Saint-Germain n'a pas apprécié les mots du président havrais Jean-Michel Roussier quand celui-là avait critiqué l'effectif de Paris, enfin l'équipe type alignée par Paris contre Clermont. Il y avait eu des points de perdus par le Paris Saint-Germain et donc des points gagnés par les concurrents du Havre à ce moment-là. Il avait aussi dit Jean-Michel Roussier qu'il ne voulait pas décaler le match du Havre contre le Paris Saint-Germain alors que la LFP voulait faire de la place pour les clubs en Coupe d'Europe. Mais bon, tout ça c'est des supputations. Oui. Dans la réalité, évidemment, le Havre-Marseille c'est un match équilibré. Metz-Paris également, même s'il manque les stars, rattraper 11 buts de différence dans une dernière journée, ça semble quand même très hautement improbable.
Personne n'y croit, évidemment. Aurélien Tersin qui sera au commentaire pour vérifier quand même tout ça, qu'on n'ait pas dit de bêtises. Le Havre, Marseille, coup d'envoi à 21h. Merci.
Et en plus, on n'a pas perdu contre l'OM depuis 36 ans. C'est un des rares records que l'OM tient encore.
C'est l'avantage de passer une vingtaine d'années en Ligue 2, mon cher Aurélien. Ça évite les mauvaises surprises. Merci beaucoup. Tout à l'heure sur RMC. Un petit mot pour finir avec Patrick Muller qui suivra évidemment, qui commentera la rencontre entre le FC Metz et le Paris Saint-Germain. Le FC Metz qui a dû accueillir Patrick avec un certain enthousiasme l'absence de Mbappé et de beaucoup de ses copains du groupe parisien.
Ah ouais, bien sûr. Bonjour Simon, bonjour Seb. Effectivement, c'est un petit soulagement qui se dessine côté Messin, en sachant que Mbappé a souvent fait souffrir les Gredins, puisqu'il totalise 12 buts en 8 confrontations avec le FC Metz, en incluant un triplé qu'il avait inscrit à l'époque où il évoluait avec Monaco. Alors, en revanche, ce qui manquerait, c'est le fait que la boucle aurait pu être bouclée, parce qu'il faut savoir que le premier match de Mbappé avec le PSG, ben c'était tout simplement face au FC Metz. C'était le 8 septembre 2017 à Saint-Symphorien. Donc voilà, les adieux à la Ligue 1 auraient pu se faire là où l'histoire avait commencé. Mais bien évidemment, c'est un petit soulagement, même si côté Messin, ben c'est un peu toute proportion gardée le même scénario s'agissant du Havre. Il faudra vraiment une immense catastrophe pour que Lorient s'impose très largement, pour que Metz s'incline très lourdement. Ça, c'est évidemment une possibilité, mais il y a quand même 7 buts d'écart entre Metz et Lorient, avec 3 points d'avance, bien sûr, pour Metz. Et simplement et rapidement, je me suis amusé à regarder les points de règlement. Il faut aller jusqu'au critère numéro 5 dans l'hypothèse où on aurait une différence de buts qui serait similaire entre Lorient et Metz. Et dans ce cas-là, ce serait le nombre de buts marqués à l'extérieur qui différencierait les deux équipes, qui permettrait à Metz de sauver sa place de barragiste, en tout cas puisqu'ils sont imposés 3-2 au match aller, les Gredins.
Alléchant, autant qu'indécis, Metz, PSG, le PSG on le rappelle privé de Mbappé, Dembélé, Vitinha, Donnarumma, début de réponse
Enrique
à partir
aussi,
de... Enrique, il sera là. Et toi tu seras là encore de 15h à 17h autour de Benoît Boutron, à qui je passe la balle dans l'Intégra Sport. On se quitte quelques instants et vous revenez pour ne rien manquer du départ du Grand Prix de Émilie Romagne, la Formule 1, 7e manche de la saison. Benoît Boutron, Intégra Sport avec Sébastien Piocelle dans un instant. Vous ne bougez pas, vous restez sur RMC, le sport, le débat, l'info ne s'arrête jamais. Salut.
RMC. Intégra Sport.